Et bonjour à tous et bienvenue pour la seconde de hashtag analyse. Voilà, le dimanche, votre émission du dimanche à 20h. Et je suis avec Twix aujourd'hui pour co-présenter. Comment ça va, Twixou?
Ça va très bien et toi? Ça va super. Très content d'être là, mon cher host du dimanche soir.
Bah écoute, ravi de t'accueillir aussi. La dernière fois, c'était Noah. Bon, comme vous le savez, on vous l'avait dit un peu, mais on va tourner un peu au niveau des personnes qui hostent chez nous. On aura même du Tréton qui viendra à certains moments parce qu'on compte bien inviter des joueurs pro FR. Et bon, Tréton a des affinités un peu spécifiques avec eux, on le sait. Donc voilà, on prévoit pas mal de trucs. Comme vous le savez, pour tous les débuts de hashtag analyse, on vous le disait la dernière fois, mais on va parler LPL en recevant Croc, qui va nous faire un petit tour d'horizon de la ligue et qui va nous parler des tendances, de ce qui s'est passé cette semaine et qui également va nous raconter des petites histoires. Voilà, donc on va accueillir Croc.
C'est ça, mon chouteau. Oh là là, le croquis, ça fait si
longtemps.
Hey,
salut tout le monde.
Salut VG.
Salut Croc.
Comment ça va?
Bah nous ça va, nous ça va. Écoute, ça s'est bien passé à Div 2 cette semaine et ça recommence demain.
Bah ouais, écoute, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a des équipes qui sont chaudes. Attention, les petites équipes de LFL, hein. Ça tape fort derrière en Div 2.
Ouais. Bon, écoute, Croc, tu es là pour nous parler un peu de ce qui se passe en LPL cette semaine, enfin de ce qui s'est passé en LPL cette semaine. Vas-y, petit tour du classement. Tout d'abord,
oui,
on va regarder
exactement.
Bien sûr le classement. Quelle est la situation actuelle? Edward Gaming toujours invaincu. Tu nous en parlais la semaine dernière avec Viper, leur ADC. FPX qui remonte en force et RNG qui a baissé d'un cran, Croc, puisque la semaine dernière ils étaient encore invaincus si je ne m'abuse.
Et oui, il fallait bien à un moment donné trébucher et ils ont trébuché dans cette semaine. Ça fait partie des aléas, mais j'ai toujours le maillot là-haut, ça veut dire quand même que ça se passe bien du côté de RNG. Cette semaine, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette cinquième semaine de LPL et donc de cette mi-saison, puisque ça y est, on a joué la moitié des matchs déjà en LPL, c'est que Team WE chute. Ça c'est le premier point. C'était une équipe dont je vous parlais déjà la semaine dernière et qui a pris une double défaite. Une double défaite face à Rare Atom, le nouveau nom de Vici Gaming, et JD Gaming, que je vous disais dans le mal la semaine dernière, qui revient un petit peu plus sur le devant de la scène, à une game d'ailleurs de Team WE. Le deuxième info, je pense, de ce classement, c'est justement ces Vici Gaming, maintenant Rare Atom, qui d'un coup prennent 2 points cette semaine. Je pense que c'est une équipe qui fera pas... qui ira pas très loin en playoff, mais va falloir peut-être un peu plus compter sur eux. C'est finalement pour moi comme les LNG de la semaine dernière. Rare Atom, c'est une équipe, pour vous donner une idée, c'est là où il y a Leian maintenant, hein, l'ancien jungler de Invictus Gaming. Il y a toujours une équipe où il y a Highboy et il y a
Tu penses qu'ils sont playoffables? Quand même, hors playoff actuellement, on a des équipes comme Top Esport, comme Suning, ça va se réveiller quand même à un moment, non?
Exactement. Faut quand même considérer qu'il y a pas mal de petites équipes. Vous voyez les OMG, même s'ils ont pris leur première victoire face à Bilibili Gaming cette semaine, pour moi, c'est une équipe qui restera là où elle est, c'est-à-dire 16e du classement. Rogue Warriors, pareil. Et du coup, il y en a certains qui ont déjà joué ces matchs. Donc, ils ont piétiné un peu et pris des points d'avance. Mais quand tu vas te retrouver face à FPX, je vous le dis, ça va pas rigoler du tout. Parce que FPX, c'est peut-être l'une des meilleures équipes au monde actuellement.
Ok,
tout simplement.
Ok. D'ailleurs, c'est l'équipe sur laquelle tu avais envie de t'arrêter tout particulièrement cette semaine, puisque j'ai l'impression que la dynamique Nuguri plus Beau commence à prendre forme. On voit des rumbles du côté de Dwinbee. Parle-nous un peu plus de FPX.
Alors, FPX, c'est fou. Honnêtement, 2020, ça a été une année peut-être difficile, mais 2021, je les vois bien aller tout rafler, ou en tout cas être sur l'une des meilleures pentes pour tout rafler. On a donc un nouveau jungler qui a remplacé Tian, je vous en parlais la semaine dernière, et qui est pour l'instant invaincu en LPL. Il est sur 10 victoires d'affilée, et pourtant ils ont eu quelques clients, hein, entre autres les Top Esports, tout simplement, qu'ils ont juste dégoupillé en 2-0 assez rapidement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nuguri est enfin en place. On a même eu le droit à son Kennen face à Top Esports.
Contre une Camille.
Il y a un sacré Kennen. Je sais, attends. C'était contre une Camille, exactement. Le deuxième point, c'est Dwinbee. Vous avez retrouvé, si vous aimiez le Dwinbee de 2019, vous l'avez. Renekton, Rumble, Kled, vous pensez que c'est la top lane? Non. c'est toujours.
Ah non,
c'est
mais on l'aime pas du tout, Dwinby. Hein. Il nous a pété quand même une coupe à la maison. Enfin, moi je le déteste.
Ah, mais quand même, il est sympa. C'est, on aimerait plus de joueurs aussi oui. emblématiques que lui, mais effectivement, bon, il nous a défoncé chez nous, quoi.
Il nous a détruit à domicile, mais il a retrouvé le cœur de jeu qu'il avait et il s'est pas transformé pour essayer de jouer des Syndra pour faire comme Knight, tu vois.
Oh là,
et du
le
coup.
Boss.
Aujourd'hui, il a un ratio de 8 assists par match. C'est le premier, hein, y a pas mieux que lui. Il décale tout le temps avec ses champions. En même temps, ils sont faits pour. Et on les a, enfin, face à Top Esports, c'était incroyablement fort leur decision making. Donc voilà, les solo lanes sont en place. Leur jungler est invaincu. Et on a sûrement l'une des meilleures rel support. C'est Crisp. Crisp qui est insultant tellement il est bon dans ses engages. 7 picks, 7 victoires. C'est sûrement ouais. Si vous voulez apprendre à jouer RL, regardez quelques matchs de Crisp. Vraiment, c'est ça le. Et puis LWX, je vous passe le tableau, mais c'est le meilleur ADC chinois actuellement.
D'accord. Donc FPX qui revient en forme après une année 2020 un peu sur courant alternatif, excellent. Ouais. Écoute, on va voir si ça se poursuit, mais c'est peut-être l'équipe chinoise qu'on verra au MSI.
Exactement. Et d'ailleurs, pour motiver LWX, ils avaient pris un petit prodige de LCK qui s'appelle Prince, 20 ans, joueur coréen, qui avait été dans les subs d'Amwon, etc. Aujourd'hui, ils l'ont renvoyé en LCK en lui disant « c'est bon, t'es bon et loyaux service, on le renvoie en LCK ». Et donc, on ne sait pas encore dans quelle équipe il va atterrir, mais a priori, il aurait une équipe de LCK. Donc, évidemment, sûrement en sub, mais a priori, voilà. Prince, il a aidé à pousser LWX en mode « va falloir que tu step up ». Et ça y est, on y est. On a un FPX qui, pour l'instant, est, je pense, l'une des équipes monstrueuses de ce début de saison.
Ok, très bien. On voulait faire un petit point.
D'accord, Croc. Excuse-moi, j'interromps, mais
vas-y. Oui.
Mais l'année dernière, il s'est passé quoi?
Alors, l'année dernière, honnêtement, je comprends pas. Je pense qu'il y en a un qui s'est dit, je suis overconfiant, tout va bien se passer et tout. En fait, ils ont un peu essayé de faire jouer Khan, ça n'a pas dû fonctionner. Ils ont repris Gim Goon qui était le weak side king et Nuguri joue très bien weak side. D'ailleurs, c'est hyper hyper intéressant parce que on s'est dit de nouveau un coréen, de nouveau un mec qu'on va essayer de mettre bien. Mais en fait, ce qui est ouf avec cette équipe, c'est leur capacité de décision, la rapidité d'exécution et on les lâche pas. Tu sais, un peu, bah exactement comme le Fnatic G2 dont peut-être vous reviendrez dessus tout à l'heure où on se retrouve avec genre un Fnatic quand il se réveille, il lâche rien jusqu'au bout. Alors là, il y a pas les problèmes de connexion ou de packet loss, mais il y a ce côté, côté FPX, on va au bout et à 30 minutes de jeu, on a gagné. Donc voilà, petit focus sur FPX, je pense que c'est une équipe à suivre.
Très bien, très bien. Écoute, de toute façon, j'imagine que les dimanches passants, tu auras l'occasion de revenir un peu sur leurs exploits. Mais ouais, des rumbles, des clades sur la mid lane, on retrouve effectivement l'identité de l'équipe qui avait tant surpris en 2019 et qui avait fini par obtenir la couronne de champion du monde. On voulait parler un peu de méta aussi, Croc, puisque il y a un champion sur lequel tu avais envie de t'arrêter et qui représente un peu une anomalie en LPL.
Exactement. Vous en LEC, vous en LCK, en LCS, non je rigole, vous avez l'habitude d'avoir des Talia avec un gros pourcentage de win rate et surtout de présence. Talia, c'est 98% de présence en LCK, 88% de win rate. En LEC, 100% de présence, 86% de win rate. Mais en LPL, on est seulement à 37% de présence pour, malgré tout, 76% de win rate. Donc, 3 fois sur 4, ça gagne. Et ils en ont joué 17 picks. Hein. C'est sur un montant qui commence à être intéressant et valable. Et je me dis, mais c'est bizarre que cette Talia soit pas plus priorisée. Nous, on voit plus de Panthéon, qui est tout instant pick, instant ban, de Olaf, de Graves encore, et de Udyr, hein, qui a fait 30 picks là, depuis le 11.2. Mais la Talia, c'est peut-être le point qui n'est pas maîtrisé ou en tout cas pas utilisé comme dans les autres ligues. Donc voilà, je voulais vous le signaler. Peut-être que vous avez vu, vous, des adaptations en ce 11.2 aussi.
Moi, ce qui me surprend, ce que tu dis, tu vois, c'est que finalement, tu dis qu'il y a pas mal de Panthéon, mais attends, mais si Atalia Open et Panthéon dans les mêmes drafts, normalement, il y a moyen de faire des trucs de fou, que ce soit
Panthéon,
mid,
c'est
bot,
plus
ban, top.
C'est plus ban que pick, mais c'est 100% présent, quoi. Okay. Parce que, mais il y a encore, je pense, un bon attachement à Graves, surtout pour les vieux junglers.
Ouais.
Et le Nidar Renekton à la faveur par rapport au Talia Renekton. C'est ça que j'ai comme sensation aussi.
Pourtant, Talia Renekton, t'es pas protégé par une wave, quoi. Il y a pas de timing un peu délicat où t'arrives et où la wave se met devant toi. C'est du tout cuit.
Et j'ai la sensation qu'il y a quelques équipes qui, dans leur macro, et on en a souvent parlé en LPL, ne sont pas tout à fait au point. Et dans ces cas-là, le Nidalee te permet de plus chercher le 1v1, l'invade dans la jungle adverse. Peut-être qu'une Talia dont il faut utiliser le mur, utiliser les rotations à bon escient. Et peut-être que c'est ça aussi la différence entre cette LEC, LCK et la LPL qui maîtrise moins le pick ou qui veut moins jouer.
Ok, bah écoute, on va voir ce que ça va donner, mais j'avoue que c'est étonnant. On suivra cette progression ou cette régression du pick Talia en LPL.
Bon,
la rumeur
Udyr,
de la semaine. Vas-y,
Udyr, on l'a eu. Ouais. Je finis sur le sujet et évidemment Style of Mill l'a joué. Et si Style of Mill l'a joué, eh ben il le joue. Full
avec Moonstone.
Full stock.
Attends, Talia ou Nidalee?
Non, Udyr, Udyr.
Ah, Udyr.
Il le joue avec un gantelet, alors qui s'appelle plus gantelet givrant, gantelet.
Le gantelet pyro machin.
Pyro-technique.
Voilà, pyro-technique. On a également, une plaque du mort et après encore du tanking avec un visage pilou enfin bref. Et évidemment, ça n'a pas du tout marché, mais c'est vrai une nouvelle fois, le plus tanky de tous les junglers.
Pourquoi il fait pas de chem-tank?
Je comprends pas. Il l'a fait en game 2, mais c'était trop tard.
Ok.
Et voilà, il veut pas faire comme les
autres. Il veut pas.
Ouais. Il joue Lee Sin Tank, pourquoi pas jouer Udyr Tank. Okay. C'est un peu ça. Oui, l'histoire de la semaine, je vous la raconte. C'est une rumeur qui est sortie sur Weibo et qui a été retransférée sur Twitter. LGD pourrait vendre son slot de LPL. Et je vous parle pas d'une petite équipe. LGD, c'est quand même une équipe présente depuis 2012. Ils ont fait les Worlds en 2020 avec les résultats qu'on connaît. Mais les débuts compliqués de cette équipe 2021 et le fait qu'il y ait des organisations qui sont prêtes et intéressées à rentrer en LPL, eh bien, ils pourraient se retrouver à vendre leur slot de LPL. Bon, aujourd'hui, LGD, c'est pas beaucoup de victoires. Mais dans les rumeurs, j'ai vu une équipe que l'on connaît sur Dota qui s'appelle EOM, qui pourrait être intéressée par ce slot côté LGD. Et du coup, ces rumeurs, elles s'amplifient. On verra si ça prend encore plus d'ampleur par la suite et si c'est confirmé. Mais ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu en début de saison. Sunning, qui pourrait être racheté par Weibo, c'était une des rumeurs en cours. Ou encore AHQ, qui, je vous le rappelle, ne participe pas à la PCS cette saison. AHQ, qui est une équipe de LMS, PCS maintenant, qui a fait un partenariat avec Rogue Warriors, une petite équipe de LPL, mais une équipe tout de même, pour pouvoir avoir leur logo dessus, de leur maillot. Donc du coup, AHQ et Rogue Warriors aujourd'hui sont liés, et peut-être demain AHQ, une équipe historique d'Asie, pourrait se retrouver en LPL également. Donc voilà, pas mal de mouvements sur les équipes et les structures qui pourraient avoir un renaming, voire même un nouvel investisseur.
D'accord, ok, bon, ça ferait bizarre. Moi, LGD, en plus, j'étais allé visiter leur gaming house à l'époque. J'avais croisé Heard, j'avais croisé Marine, j'avais croisé PYL là-bas. Enfin, bref, plusieurs des légendes de l'équipe, tu vois. J'avoue que ça ferait un peu bizarre de ne plus les voir en LPL.
Ouais, ce serait évidemment pour moi une vraie perte. Après, c'est toujours pareil en LPL comme dans beaucoup de ligues. Enfin, en tout cas en LPL plus que ailleurs, on a des fils de milliardaires qui se repassent des structures. Donc, ça peut aussi passer par cette case-là, quoi.
Ouais. Ok, Croc. Bon, très bien. Écoute, je crois qu'on a fait le tour pour le point
exactement.
De la LPL. Rien
J'ai
à rajouter.
Truc à vous dire. Si, Vas-y. Un truc à vous dire. Déjà, pour tout le monde, parce que la LCK et la LPL s'arrêtent pendant 2 semaines. Et donc, je veux vous souhaiter une superbe nouvelle année, puisque c'est le nouvel an chinois, le 12.
Ouais.
Et donc, ce sera année sous le signe du buffle du métal. Donc je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour vous. Est-ce que vous allez jouer plus Alistar cette saison que l'année dernière? Je n'en sais rien, mais voilà, c'est le buffle du métal qui sera à l'honneur cette année.
Ok.
Ah, il est en métal, c'est super.
Et ouais. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs des petits buffles sur nos launchers League of Legends, puisque c'est le logo de cette année. Et en Chine, c'est tellement quelque chose de big que tu te retrouves avec des buffles en métal partout, dans les restaurants, dans chez soi, etc. Donc voilà, vous aussi, équipez-vous de votre petit buffle de métal avant le nouvel an chinois, le 12 février.
Ok, d'accord. Eh bien, écoute, ça marche. 2 semaines de pause pour la LPL, être remonté à fond pour revenir en force du côté des joueurs. Merci beaucoup, Croc, pour ton point hebdomadaire pour la LPL. On se retrouve, pas la semaine prochaine parce qu'il n'y aura pas de LPL,
mais on fera peut-être le point au retour
de la LPL.
C'est ça, exactement. Passez une bonne soirée. À plus tard, tout le monde. Ciao, ciao.
Merci beaucoup, Croc. Salut.
Quel BG.
Donc voilà, c'était le point LPL de Croc. J'espère que ça vous a aidé à vous maintenir au niveau sur ce qu'il se passe dans la ligue. LGD qui partirait, ça ferait quand même une sacrée équipe emblématique, tu vois, qui serait plus là. Ça ferait quand même bien bizarre. En plus, on les a vus au Worlds il n'y a pas longtemps.
Ouais, c'est sûr, bon. Mais bon, une équipe malgré tout à l'histoire torturée. Hein. Il n'y a pas oui, seulement l'année peu, passée, ouais. Mais bon, 2015, c'était une sacrée ambiance pour eux. Donc, ils sont anciens, mais ma foi. On va dire que c'est pas un champion qui s'en va, il y a au moins ça.
Oui, oui, oui. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Écoutez, on va pouvoir passer à, vous le savez, la notation du match de la semaine. Pour le match de cette semaine, alors j'entends d'ores et déjà les discussions qui vont suivre ce que je vais vous dire, mais pas grave. Du coup, pour le match de la semaine, on a décidé de discuter de Schalke 04 contre les Rogues. On le sait, il y a eu hier le Fnatic contre G2. Mais voilà, il y a eu pas mal. Bon, on en reparlera plus tard avec Striker lorsqu'on parlera du LEC. Mais il y a eu des problèmes de connexion du côté des G2. Et bon, de mon point de vue, ça enlève rien à la bonne perf de Fnatic et à leur victoire. Mais avec Twix, on se voyait pas forcément noter des perfs individuelles G2 qui ont été influencées par des pertes de paquets internet, etc. Donc voilà. Donc vu ça, on s'est dit bon, on va pas noter des perfs individuelles comme ça. Ça aurait pas forcément trop de sens et moi je me sentirais pas super à l'aise de le faire. Voilà.
Je suis bien d'accord. C'est trop. C'est une situation qui est beaucoup trop délicate. Alors, ouais. Ce serait tout à fait possible de noter les drafts, par exemple, ou ce genre de choses.
Oui, oui, mais bon.
Mais c'est vrai que le joueur qui a le mieux joué, etc., bon, c'est compliqué. Du côté de G2, en tout cas.
Du côté de G2, serait, c'est compliqué. Ce serait après, pas du côté de Fnatic, bon.
Ah, ce serait des bonnes notes.
Oui, du côté Fnatic, ce serait des très bonnes notes, c'est clair. Mais du côté G2, c'est un peu compliqué de notre point de vue. Donc voilà, encore une fois, de mon point de vue, ça enlève rien à la victoire de Fnatic, mais j'avais pas envie de mettre des notes au G2, sachant qu'il y a eu des lags de leur côté. Donc on va passer à ce Rogue contre Schalke 04, qui était un très 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 beau match, Twix. Vous allez en avoir les différents extraits qui vont tourner en même temps, et on va rapidement revenir sur chacune des notes. Donc cette fois-ci, on les donnera pas en direct, et on prend les replays d'Onivia au passage, hein, si vous voulez, d'Highlight des Games. Cette chaîne YouTube fait des trucs vraiment très propres. On commence par les Rogues, Twixou, avec Odo Amené. On lui a mis 7 chacun, Odo qui était sur ce pick chaîne. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, Odo, malheureusement, il s'est retrouvé dans une situation extrêmement délicate. C'est-à-dire qu'il a un pick qui est certes compréhensible vu les conditions de la game, vu qu'il a été pick en last dans cette draft qu'on jugera tout à l'heure. Mais également dans une situation où il y avait déjà une Camille qui avait été draftée et surtout une Rel. Hein. Donc les deux avaient déjà été draftés avant qu'il ait son chaîne. Le fait est qu'il a outfarm dans son vis-à-vis, que certaines, voire la plupart de ses interventions étaient value. Voilà, avait de la value, la tenue de sa lane. Il n'a pas laissé Broken Blade prendre beaucoup d'espace sur les sides. Mais le fait est qu'il y a notamment un teamfight, et c'est le dernier où, pour moi, il a juste. Enfin, les Rogues se sont pas compris, c'est certain. Et lui, tout particulièrement. Et c'est pour ça que ça baisse un petit peu par rapport aux éloges que j'ai pu formuler.
Ouais, je te rejoins. Je l'ai trouvé bon sur sa lane, Odo. Il a été en général toujours un peu devant Broken Blade en CS. Il a mis d'assez bons ultis. Il a eu de la présence. Il a réussi à mettre de la pression dans son 1v1. Là, on le voit encore une fois. Il outplay, il bait par exemple sur cet extrait. Et bon, son dernier teamfight au Baron a quand même été un peu plus délicat. Mais pour l'ensemble de son œuvre, il a eu un bon chaîne quand même, Odo. Voilà, mais les conditions de la game étaient difficiles. On va passer à Inspired. Inspired qui est pour moi le meilleur joueur des Rogues sur ce match. Il a été très présent avec sa Talia, beaucoup de dragons qui ont été enchaînés de son côté, plusieurs ganks en lane qui ont été très impactants, du rythme au niveau du farm, Twixou. Il avait un match-up avantageux au niveau du farm et on l'a ressenti dans le match.
Ouais, complètement. Toute la draft était vraiment portée sur cette Talia, laissée open de manière assez discutable du côté de Schalke, étant donné que surtout les Rogues ont bien focus les ban jungles, ce qu'on reverra certainement plus tard mais il y avait 5 Ban Jungle dans leur side et Gidius donc s'est retrouvé sur Jarvan. Donc dans ce match-up là, c'était sûr qu'on devait s'attendre à ce que Inspired soit devant. Il l'a été, il a respecté un petit peu la portée de son pick, il a été omniprésent, une des principales sources de dégâts, et ces murs, on a peut-être des choses à redire au niveau de ces murs de la tisseuse ou de ses interventions en side. On peut discuter le fait que on essaye à plusieurs reprises de calmer une Camille avec Shen plus Talia, ce qui bien entendu est jouable mais parfaitement outplayable par la Camille.
C'est technique, c'est assez technique. Ouais.
Ouais, ouais, Broken Blade, il a le permis, hein, c'est certain. Donc dans toute cette mesure là, je pense qu'il a fait une excellente game. Un team fight Baron Nashor, encore une fois, je vais dire ça d'à peu près tous les rogues, mais loupé. Selon moi, qui vient les enterrer, mais ouais. Jusqu'à ce qu'on en arrive là, il a fait une game solide.
Ouais, ouais, entièrement d'accord. Meilleur joueur des rogues, Larsen avec son pick Lucian qui je pense a entraîné beaucoup de la draft derrière lui. Larsen, bon, il fait une game correcte, mais j'ai pas trouvé qu'on l'ait non plus vu que ça. Toujours solide au niveau du farm. Il a pas réussi à mettre en danger plus que ça à Bedague en 1v1. Mais il a quand même eu de la présence dans les teamfights. Il était là, Larsen, sans faire une game incroyable non plus.
Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Larsen était solide sur le farm, devant jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'items sur Orianna pour que ça puisse match. Le problème, c'est que son impact en teamfight était très délicat. Il était délicat pour n'importe quel ADC, avec un combo Rel, Jarvan, plus Orianna, plus Camille, plus Kai'Sa. Ouais. Donc les conditions étaient vraiment, vraiment terribles. Mais en soi, très très bon match de son côté niveau laning phase et tenue. Il s'est pas fait surprendre par de Jarvan ou de choses comme ça en individuel, sauf à un moment dans le match où pour moi il coûte assez cher à son équipe, mais heureusement pour lui il y a un autre joueur qui a coûté beaucoup plus cher et ça a un petit peu masqué cette erreur là de son côté.
Ouais, le joueur bien sûr qui a coûté beaucoup plus cher à l'équipe, il s'agit de Hans, à qui on met la moins bonne note des rogues. Pourtant, en early game, il est pas mal revenu de cette agression qu'ils ont pris au niveau 1, les rogues. Agression d'ailleurs où bon, on pourrait un peu pointer du doigt justement la duo lane des rogues. Mais derrière, ils sont pas mal revenus, des bons plays. Par contre, le problème, c'est que Rogue avait 2-3 mid gold d'avance à ce fameux teamfight où Schalke 04 va très loin. Et Hans met ce flash in alors que toute son équipe ne le suit pas. Il va quand même dans 4 joueurs, il me semble, au total. Il se retrouve totalement isolé.
Ouais, c'est ça, 2 et 4. Eh bien, ce move, c'est le tournant de la game. C'est très clairement le tournant de la game puisqu'il y a beaucoup de choses qui caracolent juste derrière, un petit peu qui s'effondrent comme un château de cartes. On y est bientôt d'ailleurs dans les highlights, je crois. Mais en soi, c'était au niveau du premier.
Ouais, c'est déjà passé.
Du troisième drake. Ouais. Quand il fait ce flash-là, en fait, il y a un call chez les rogues qui est visible. Celui de Inspired qui recule, qui va régène. Celui de Odo Amné qui back et qui va TP. Il y a ce call. Parce qu'il y a un mur de la tisseuse, etc. Il existe. Maintenant, Hans a facilement 6-7 secondes d'avance par rapport à ses coéquipiers. Donc on peut voir ça comme étant un talent de Jedi absolument absolument fringant, ou simplement comme une erreur humaine. Et enfin, il a été gold le temps d'une seconde, voilà.
Ouais. Ouais, et le truc, c'est qu'après, ça a beaucoup de conséquences, puisque le teamfight suivant, énormément, où Schalke arrive à hard engage, Hans n'a pas son flash, et du coup Gilius va directement le sécher. Gilius qui, comme d'habitude avec Jarvan, est assez bon pour aller trouver les joueurs qui n'ont pas de flash, et ça a eu énormément d'impact sur la game ensuite. Et on va parler de Trimby pour terminer. Donc voilà, Hans, on lui a mis une note assez dure quand même, sans doute sa moins bonne prestation depuis le début du LEC.
Disons que pour Hans, sur 90% de la game, on va dire qu'il est facilement entre 8 et 9. Mais sur ce move-là, c'est le move clutch, quoi. Il faut qu'il y ait un move dans la game. Et celui-là, clairement, il doit le porter tout seul. Il était trop en avance sur ses coéquipiers.
Ouais. Ouais, donc le 5 pour Hans après ce throw un peu qu'on a pu voir. Trimby, on lui a mis 6 au support de Hans. Trimby, écoute, il a fait des team fights solides. Il a pas le bon réflexe sans doute au niveau du dernier team fight pour le Baron, Et il est un peu surpris sur l'agression niveau 1 en lane. Mais à part ça, derrière, il s'est pas laissé faire sur tous les passages de Gilius sur le bot side. Il a, à chaque fois, il n'hésitait pas à rentrer dedans. Il a été assez bon sur les positionnements avec son Rakan. Mais, il y a eu ce fight au Baron qui a un peu loupé de sa part. La lane, ça, ouais, où il s'est fait un peu bouger également. Donc, voilà, une performance décente de sa part. Mais on aurait sans doute pu faire mieux à l'image de la bot lane des Rogues.
Complètement, c'est la transition, je pense, entre le Rakan lane, ganker, setupper, celui qui se met dans les buissons, qui bait un petit peu, qui presserre et qui voilà engage directement de manière soudaine sur un 2v3 ou un 3v3 bot lane, etc. Mais une fois qu'on était passé en phase de teamfight où les Schalke étaient en mode attaque, activé, c'est-à-dire que concrètement, Gidius, il arrive, il jump in sur la personne qui n'a pas de flash, on presse shockwave, on exécute. Dans cette phase de jeu-là, Il a manqué de cette réputation qui a été construite autour de lui sur les éclats de génie de Rakan, parce que je pense que de grands Rakan, et il en est un bien sûr, mais pour comparer à de grands Rakan qu'on connaît, chez Teuf, Fnatic, enfin peu importe, je pense qu'on aurait pu avoir un aspect peeling de Rakan qui soit joué ici pour briser le combo entre Orianna et Jarvan et faire en sorte que bah tu peux pas cesser Jarvan, bah tu vas directement dans la backline sur Orianna, elle a pas de cleanse, tu lui mets RZ et t'essayes de faire en sorte que leur teamfight il soit un petit peu déconstruit. Et je pense que c'était vraiment le move à faire et on l'a pas trop vu de son côté.
Là pareil, il se fait bien outplay hein, Trimby, mais ouais, limite qui prend une assez bonne note de notre côté, on en parlera après. On va passer à Schalke justement. Broken Blade, je lui ai mis 6, tu lui as mis 7, Twixu, t'as été un peu, j'ai pas trouvé sa Camille extraordinaire, tu vois. Autant je trouve que c'est même le meilleur joueur statistiquement pour l'instant de sur la top lane de la Ligue U, mais j'ai pas trouvé sa Camille extraordinaire, que ce soit en team fight ou autre ou en split. Il a un peu attiré autour de lui, mais sans créer un jeu de fou de mon point de vue.
Bah il était pas clutch, c'est-à-dire qu'il a pas fini et fait une performance de Camille en 7-0 domination, mais en soi, ça c'est ce flash là que Larsen aurait dû lâcher hein. C'est ça qui lui coûte ça coûte vraiment cher dans le match. Mais ce que je voulais dire, c'est que sa Camille, bon, il a essayé de presser sur Odo Amné qui a extrêmement bien résisté, mais surtout, à part à ce moment-là, il s'est pas fait choper par toutes les interventions en side de Odo Amné Inspired. Il a fait perdre du temps, ce qui, à mon sens, faisait partie de son rôle dans cette game.
Sa mission, ouais.
Mais surtout, il a créé beaucoup de pression. Alors, pression visible, invisible, c'est un petit peu délicat. Mais par exemple, dans le fameux team fight où Ansama flash-in par-delà l'antre du dragon, bah, il est notamment isolé face à la Camille de Broken Blade, et il a eu un petit peu ce rôle-là d'élément perturbateur jusqu'à simplement n'être qu'un rouage dans la machine Gidius à Bedagueux.
Ouais. Mais bon, voilà, honnêtement, un match correct de la part de Broken Blade, mais on a vu mieux de sa part, notamment son match contre G2 où il a été vraiment exceptionnel pour le coup. C'était
en fait, tous ces mouvements-là là, de pression ici, bah, c'est pas trop mal sur le principe, il est mobile. Bon. Il s'en sort relativement bien vu la situation grâce à ses coéquipiers. Gilius prend la balle pour lui. Mais en soi, tous ces moves-là où il fait planer un petit peu la pression du hookshot, je pense que ça a eu beaucoup de valeur dans la rencontre.
Ouais. On va passer à Gilius maintenant. Gilius qui fait une bonne invade en early game, mais qui pousse un peu trop loin. Et derrière, je l'ai trouvé un peu éteint en mid game. Il s'est un peu empalé dans certaines situations. Bon, il est tombé loin derrière au niveau du farm. À la limite, c'est pas choquant dans le match-up, mais l'écart a été vite assez énorme quand même. Ouais. Et par contre, Gilius, on l'a un peu retrouvé dans les teamfights quand il manquait des flashs du côté des Rogues. C'est là où on connaît son efficacité potentielle avec Jarvan. Donc on a décidé de lui mettre 6 à 2 parce que, certes, il a eu quelques bons teamfights. Là, par exemple, il s'empale un peu tout de même. Il va un peu trop deep. Mais plus tard, il a quand même eu deux bons teamfights.
Bah, essentiellement, Gidius, il fait la même chose du début à la fin de la game. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas eu de dents d'yeux, il n'y a pas eu de flash, il n'y a pas eu de position. Voilà, ce flash-là, il est catastrophique. Mais vous voyez, il y a le mur de la tisseuse derrière, il y a Shen qui a son TP. Donc, il y a un move hein, chez les Rogues. Après, ils prennent le Drake, bon, bref. Mais concernant Gidius, c'était un morceau de viande, entre guillemets, dans cette game. Ouais. Le morceau de viande qui servait de relais à Bedagueux. Et il a brillamment accompli sa mission à ce niveau-là, mais le reste du temps, ça a été le fardeau que l'équipe devait porter. Voilà.
Ouais. Passons à Bedagueux qui reçoit nos meilleures notes avec sa Orianna sur ce match. Abedegueux qui a été clairement le carré de Schalke, engagé dans un match-up qui peut être délicat face à Lucian avec Oriana. Il a toujours été au point au niveau du farm, dépassant même régulièrement Larsen. Il n'est pas mort une seule fois dans le match, ses shockwaves ont été pixels. Ça a été le joueur autour duquel toute la structure des fights Schalke s'est construite.
Solide, juste hyper solide, un peu dominé par Larsen, mais la loi du match-up et la loi du match-up jungle aussi, hein, oui. Qui rentre un peu en ligne de compte dans ce débat-là, mais super solide. J'ai pas vu de tondeuse à gazon, ses déplacements étaient pixels, les positionnements de ses boules, les shockwaves étaient parfaitement timés. Après, voilà, on lui a pas demandé non plus de résoudre une équation à 27 inconnus. On lui demande de presser sur un Jarvan qui presser. Mais il l'a fait de manière constante. Il a eu de très bons positionnements. Un bon TP également en late game.
Oui,
bref,
le meilleur joueur du match. Le meilleur joueur du match. De notre point de vue. On passe à la botlane. Néon du côté de Schalke qui finit quand même avec de très belles stats. Avec des belles agressions en early game. Sur le teamfight où Ansama rend se trouve un peu avec ce flash, pour moi, il est allé un peu trop loin. Mais à part ça, Néon a plutôt fait son boulot en général. Un peu moins en vue tout de même que Abedagueux, mais solide, Néon. Et quel laner quand même, hein, puisque contre Hans et Trimby, eh bien, ça s'est bien passé une nouvelle fois pour lui en lane.
Bah, j'avoue que moi, j'attribue beaucoup plus de ce succès en lane à Limite qu'à Néon, qui pour moi avait absolument tout qui lui était servi sur un plateau d'argent. Donc, il a bien mangé, c'est certain. Après, il n'a pas fait d'erreur majeure dans le sens où il s'est fait catch de quelque manière que ce soit par Trimby. Il a été extrêmement propre à ce niveau-là. Très bonne TP d'Abedagueux.
Ouais, on la voit ici.
Il a été clean, mais il n'a pas eu le côté tendu. Il n'a pas eu faits à accomplir.
Il a pas eu un big play dans la game qui aurait pu pousser sa note un peu plus.
Pour moi, il a été relativement neutre là où Ansama. Enfin, justement, le fait que Ansama puisse revenir un petit peu dans ce match après toute la catastrophe, parce que la botlane elle est doom niveau 2, hein. Enfin, genre c'est vraiment tendu ce qui se passe. Et le fait que Ansama revienne et un impact équivalent à celui de Néon. Modulo, bien sûr, le fait de se faire one shot frame 1 dans un teamfight, pour moi, c'est pas trop normal. Je pense qu'on voit beaucoup de Kai'Sa. C'est pas parce que t'es à 5 kills, 6-1, 5-1, 6-1 en l'occurrence, que t'as fait vraiment la game de ta life, à mon sens.
Tu le notes un peu moins bien que moi pour le coup.
A contrario,
tu notes un peu mieux Limite qui fait un bon match. Dans l'ensemble, tu le notes un peu mieux, Twixou. Ouais. Il t'a convaincu Limite avec sa rel.
Sa phase de lane m'a convaincu, sa phase de teamfight m'a convaincu aussi. Encore une fois, le combo est assez simple. Il est même encore plus simple avec une rel qui peut justement proc des choses de manière instantanée. Son laning était extrêmement solide. Alors, on peut toujours discuter de qui fait l'erreur, qui prend la bonne initiative. Je préfère trouver l'équilibre entre récompenser le bon move et punir le mauvais. Donc on va dire qu'il a bien joué. Moi, je préfère dire qu'il a bien joué. Il est extrêmement stable et il a une excellente rail. Il a été un énorme problème toute la game. Il faisait bien attention aux ultimates de chaîne aussi avec rail, puisqu'il peut les péter, évidemment. Très très bonne perf de sa part. Il s'est fait catch dans le mid game quand même.
Il s'est fait catch une petite fois, effectivement. Moi, c'est pour ça que je lui mets pas une note aussi élevée que la tienne. Mais...
Ça a pas coûté cher, mais bon.
Ouais, mais dans l'ensemble, je trouve aussi que sa prestation, j'ai trouvé la prestation de la duo lane de Schalke hyper solide en général. C'est vraiment maintenant un endroit de la carte où on sait qu'il va y avoir en général un bon match pour Schalke. Passons au draft. La draft de Rogue, petite note punitive de notre côté, un peu plus de ma part, parce que il y a certains top picks, bien sûr. Il y a des trucs qui découlent de la logique actuelle qu'on voit dans les drafts, à savoir Xayah dans Kai'Sa, on sait que ça marche bien. Le Lucian, qui est un champion très dominant, avec Talia, qui est peut-être le meilleur jungler aussi du moment. Mais, je dois avouer que l'ensemble manque un peu de cohérence. Ce pick chain au top fait un poil tâche, tu vois. C'est vrai que ça peut aider face à un Rakan, mais on a vu un certain nombre de fois Limite casser les shields du chain. Du coup, l'ulti, bon, perdait un peu en termes d'utilité. Et on a senti, en fait, moi, mon sentiment sur ce match, c'est que c'est plus Rogue qui a perdu la rencontre que Schalke qui l'a véritablement gagné. Bien sûr, il y a eu un bon match de la part de Schalke, mais Rogue, je trouve qu'avec une draft qui leur aurait permis un peu plus de teamfight, avec un peu plus d'options, peut-être avec un peu plus de CC aussi, parce que ça manquait de CC un peu simple à placer, tu vois, par rapport à Schalke. Bah, je pense que Rogue aurait dû gagner ce match, honnêtement, même avec le in de Hansama, mais le problème, c'est que leur draft leur a pas du tout permis de, à partir de 25 minutes de jeu, on a ouais. senti que c'était difficile, quoi. Donc, j'ai pas été fan de la cohérence d'ensemble.
Il y a un problème de cohérence. Je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, c'est surtout la manière dont s'est articulé la draft qui m'interpelle. À titre perso, et pour ça faut vraiment se remettre un petit peu en tête l'ordre de drafting, c'est-à-dire que Schalke ils ouvrent avec Kai'Sa, ce qui est on ne peut plus normal hein, bien sûr à ce niveau. Il y a Talia open, Talia n'est jamais open par hasard, et j'imagine que la Camille qui est lock juste après est là pour ça, puisque Broken Blade va lock Camille juste derrière. Mais première rotation des Rogues, on isole Talia et on prend Lucian, et moi c'est là où je mets d'énormes points d'interrogation, c'est-à-dire que je comprends pas. Est-ce que Abedague est God Lucian? Est-ce qu'on a eu des résultats absolument incroyables avec Lucian Talia? Ce qui me semble quand même un peu curieux, puisque en termes de setup, t'es un petit peu à poil. Je comprends pas la rapidité de draft ce Lucian. Est-ce que Kai'Sa Lucian Rell est un énorme problème? Parce que la Kai'Sa appelle la Rell automatiquement. Mmh. Et donc, je vois pas ce que Lucian vient faire ici. Et à côté de ça, on a l'information juste derrière au niveau de la Camille, et on ne se dit pas qu'on va avoir un problème et qu'il faut absolument lock quelque chose qui pile. Et quand je dis quelque chose qui pile, je pense soit à Thresh, que les Rogues ont banni eux-mêmes pour respecter limite, soit à Gragas, qui est banni ici en phase numéro 2 de la draft. Gragas qui aurait été un pic pixel pour Odo amener dans cette game.
Ouais, mais le match-up contre Camille est assez difficile pour Gragas.
Il est relativement neutre dans la mesure où tu le joues un petit peu à l'image du chêne.
Ouais, bah tu le joues tank, c'est sûr. Après le problème, c'est que l'interaction entre Hookshot et eux fait c'est que le Gragas est stun dans tous les cas. Du coup, ça rend l'échange un peu difficile. Mais bon, enfin voilà, on a le sentiment que ça aurait pu être mieux fait du côté des Rogues. Et la draft de Schalke, elle m'a semblé solide dans l'ensemble. Pas de folie de mon point de vue, mais des pics assez puissants qui en team fight sont forts. J'ai l'impression que côté Schalke, on est confiant sur la capacité de laning de tous les joueurs. Et on est confiant pour ne pas avoir une draft totalement OP en early game, mais qui en tout cas en termes de synergie derrière explose complètement la draft adverse. Et on l'a vu en team fight, ça avançait, c'était cohérent, et Rogue n'avait pas de moyen de résister aux différentes vagues d'agression de Schalke plus tard dans le match. Pas une draft OP en early game du côté de Schalke, mais avec la solidité de leur laner, ça a fait le boulot. Donc pour moi, c'est un 7. C'était solide, c'était pas exceptionnel, mais c'était solide.
C'était simple, efficace, ouais. et pour moi, c'est surtout la manière qu'ils ont eu d'en arriver là, dans l'évolution de la draft, puisque on se rend compte à mesure que la draft évolue que les bans s'enchaînent sur la champion pool de Gilius qui se retrouve absolument sans rien, et les deux derniers picks qui vont réussir à lock, c'est le Jarvan et c'est la Orianna. C'est-à-dire que cette composition qu'ils avaient à la base, bon, heureusement pour eux, la botlane Kai'Sa Rell est extrêmement flexible et va rentrer dans à peu près n'importe quel comp, un petit peu comme Camille qui est également extrêmement flexible à ce niveau-là, un split pusher qui sait teamfight, enfin, il y a absolument rien à jeter dans ce perso. Donc la manière qu'ils ont de pivoter sur l'information Xayah sur directement un combo qui va dire Hansama et Inspired, si vous n'avez pas de flash, vous êtes mort. Et c'est exactement ce que la draft veut dire, c'est Inspired, Talia et Xayah sont sans flash, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de counterplay, il n'y a rien du tout.
Et ils l'ont bien fait.
Ils l'ont bien exécuté et ils méritent justement, voilà, pour avoir drivé un petit peu cette draft dans ce sens-là et exploité les faiblesses des Rogues, bah, ils méritent d'être félicités.
Ouais. On aurait aimé une draft un peu plus solide du côté des Rogues, mais voilà, on verra bien. C'était une semaine bizarre au niveau des drafts des Rogues, on en reparlera bien sûr. Avec Striker, notre invité, Striker, qu'on va recevoir justement, le coach de la Karmin Corp. Alors, est-ce que tu es là? Okay. Salut Striker.
Salut Twix. Salut Chips. Comment ça va?
Ça va bien. Toi, Striker, bienvenue.
Merci pour l'invitation. C'est cool.
Bah écoute, on est ravis de t'accueillir. On est là pour parler avec toi pendant jusqu'à 22h à peu près. On a différents sujets sur lesquels on va échanger. Mais d'abord pour commencer, eh bien, on va parler de toi. striker, puisque il y a, enfin, les fans de la K-Corp te connaissent un peu, tu vois, mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à découvrir de ton côté. Nous, avec notre audience, je pense que les gens aimeraient connaître plus de choses de toi. La Carmine Corp, c'est une belle aventure pour l'instant en LFL. Et du coup, on va commencer par parler, de ta personne. Parle-nous un peu de ton parcours sur League of Legends. D'où est-ce que tu viens finalement? Parce que voilà, on commence à te connaître maintenant en tant que coach de la LFL. Mais LOL, pour toi, ça existe depuis combien de temps? Qu'est-ce que t'as fait sur le jeu auparavant? Comment t'en es arrivé là? Dis-nous-en un peu plus.
Alors, LOL, j'ai commencé début 2012, je crois, une fois qu'on m'a présenté le jeu. Dès que je suis rentré dans le jeu, j'ai tout de suite eu un attrait pour les compétitions, parce que j'ai été initié à ça par des amis qui m'ont indiqué que voilà, il y avait de la compétition et de l'e-sport sur LOL. Donc j'ai beaucoup suivi de compétitions sur League of Legends depuis 2012. J'ai toujours joué aussi de mon côté au jeu. En 2015, j'ai commencé le coaching parce qu'il y avait cet aspect, disons éducatif et cet échange avec des joueurs qui parfois voient des choses que tu vois pas et inversement à qui tu peux apporter des éléments de réponse qui est pour moi très enrichissant. Donc ça, c'était du coaching qui était à titre personnel, disons. C'était pas avec des équipes. Et en soi, d'un point de vue compétitif, c'est arrivé assez tard puisque j'ai rejoint la Carmine Corp, ou plutôt la Kameto Corp comme ça s'appelait à l'époque, l'an dernier, au poste de positional coach. Donc j'étais chargé à partir, en gros, à la fin des order dogs, je suis arrivé et je prenais les joueurs sur des sessions de type individuel. Pour discuter des aspects micro, laning et mécanique du jeu avec eux. Okay. Et aujourd'hui, du coup, là, cette année, je suis passé head coach du côté de la K-Corp. Et on a un staff qui s'articule autour de moi en head coach, Réa qui est notre assistant coach et notre data analyst, et Shanky qui chapeaute le tout et qui est le directeur sportif de la structure.
Ok. Le trio gagnant pour l'instant. On voulait savoir un peu quel type de joueur t'étais sur League of Legends. Voilà, moi j'échange un peu avec Réa qui m'aide pas mal à préparer des trucs aussi du côté d'OTP, notamment les pré-shows. Et il m'a souvent dit que t'étais un gros OTP Cassiopeia. Ouais. Alors du coup, oh, midlaner Cassiopeia.
On n'a pas le droit.
Ah, ça fait deux coachs qui sont OTP Cassiopeia en LFL maintenant.
C'est vrai, il y a Glopo aussi.
Il y a Glopo, d'accord. Ré aussi, ouais. OTP Cassio, du coup, ça commence à faire beaucoup. Mais non, de base, ouais, je suis quelqu'un qui main mid. À l'époque, c'était Nida en saison 3. Ouais. Ensuite, j'ai commencé à jouer jungle et top parce que je voulais m'attacher à Nida. J'étais déjà un one trick, donc j'ai exploré un peu tout le top side et ensuite un peu plus tard, j'ai switch sur Cassio étant donné que Nida était plus vraiment jouable au mid. Et voilà, ça fait quelques années que je joue Cassio, Elo. Ça dépend, ça varie, on va dire. Ça dépend de la forme, mais entre haut diamant et Master 300 LP, quoi.
Ok, ça a
bien plus que nous. Dis-moi, Striker, Nidalé en 2013, saison 3, c'est. Tu as OTP ça pour une raison particulière? Un joueur qui aurait commencé sa carrière cette année-là avec une Nidalé
avec lane. Un one shot sur Kha'Zix sous une tour?
Ouais, je crois bien, ouais, à 4 minutes, en partie. Ouais, je crois bien, ouais.
En partie. Non, c'est sûr que Faker, pour moi, ça a toujours été une grosse influence. Hein. Quand je regarde des games et que j'essaie d'avoir des références sur des matchups, encore aujourd'hui, malgré tout ce que certains peuvent dire, c'est quand j'essaie de découvrir un matchup, je vais le voir, lui et d'autres midlaners asiatiques en premier. Et ensuite, je discute avec des midlaners de la scène française, / européenne, de leur impression aussi, et j'essaie de cumuler un peu le tout pour avoir un point de départ. Sur comment je vois la chose.
Ces rumeurs de transfert de Faker, finalement, c'était vous?
Pour la K-Corp? Ouais. Alors, il manquait Faker. Un tout petit peu de budget. Il manquait rien de budget, ça s'est pas fait. Mais, ouais, je pense que ça aurait pu être fait, ouais.
Ah, ce serait absolument magnifique. Et je t'en prie, Chips, continue.
Ça aurait été incroyable. alors, j'avais envie de savoir aussi, Striker, t'es plus un coach micro ou macro? T'essaies de lier les deux aspects. Tu vois, souvent, les coachs se considèrent plus spécialistes dans un aspect. Tu me disais que l'année dernière, t'étais plus positional coach. Mais en tant que head coach, désormais, j'imagine que t'as quand même plus de choses à, enfin, la macro tombe un peu plus dans ton escarcelle aussi. Comment tu te positionnes par rapport à ces deux aspects du jeu?
Alors, à titre personnel, c'est deux aspects que je considère tout aussi importants. Je pense que on a tendance à écarter l'aspect micro et à se dire que, en gros, c'est le travail des joueurs de le résoudre de leur côté seul. Mais je pense qu'on a beaucoup à apporter en tant que coach aux joueurs à ce niveau-là si on s'intéresse et si on couple à leur connaissance ce qu'on peut récupérer d'autres joueurs. À titre personnel, voilà, je vois les deux comme étant aussi importants. Et je pense que quand t'as une équipe qui joue très bien la micro et la laning phase en général, ta macro est simplifiée parce que t'arrives en mid-game avec un god différence à 15 qui est plus intéressant. Et du coup, forcément, tu peux prendre des fights que tu pourrais pas prendre. Enfin, les deux s'alimentent. Maintenant, aujourd'hui, comme tu le dis, dans mon activité, à 80%, je fais de la macro, je dirais. J'essaie de m'attarder sur des points micro, sur les review scrims notamment. Mais ça va pas aller aussi loin que ce que je pouvais faire l'an dernier ou ce que je peux faire si j'ai un joueur seul. On n'a pas forcément le temps pour ça. Quand on enchaîne les scrims, il y a une équipe en face qui attend ou qui doit jouer aussi. Donc j'essaie d'avoir les deux et de faire en sorte que ce qu'on appelle l'opening de lane, en tout cas, est compris par les joueurs de la même façon, que ce soit au bot qui puisse comprendre comment Adam veut jouer, par exemple, son match-up, que Syncroft puisse comprendre comment Saken veut jouer son match-up, et que de cette façon-là, en ayant les informations de chacun et des autres sur les waves 1, 2, jusqu'à environ 6, je pense que c'est, on peut théoriser jusqu'à 6, étant donné que c'est les premiers clears et que du coup le jeu est assez standard, on peut partager la connaissance. Je pense que voilà, c'est jusque là que va la micro. Après, pour ce qui est des mécaniques pures, etc., c'est pas quelque chose sur lequel j'interviens énormément, parce qu'on n'a pas, comme tu le dis, le temps. Quand on est sur un poste macro.
Ok. Ça te manque un peu ?
Ouais.
Ouais ? Moi, t'es un fervent partisan de la micro quand même.
Oui, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais pas forcément parce que de base c'est quelque chose que je trouve plus intéressant que la macro, mais je pense que ça a été moins exploré. Je pense que dans les contenus éducatifs, je pense que dans le broadcast, je pense que dans toutes ces choses-là, on a mis un accent sur la macro et je pense que c'est normal.
C'est vrai.
Parce que on n'avait même pas avant les outils en fait pour s'attarder sur la micro. On pouvait pas analyser la laning phase de Faker quand il était entre 2013 et Provius arrivait quand en 2018.
C'est assez récent.
De façon naturelle, on s'est plus projeté vers la macro et je pense que depuis peu, on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'être plus sensibles à la micro, de mieux comprendre cet aspect du jeu. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dedans. C'est pour ça que ça m'intéresse un peu plus.
Ok, très bien.
Bah, écoute, c'est bien le discours de Tepecasio, ça. Comment j'optimise mon Q, alors.
C'est vrai. La micro sur Cassio, ça compte. Hein. Striker, petite question, parce que je t'ai posé la question, plutôt micro ou macro, plutôt scaling ou early game?
Ça dépend des méta, je pense. Je pense que ça dépend des patchs. Et je pense que ça dépend de ce qui est le plus facile à aller chercher. Actuellement, je pense pas que tu puisses vraiment en négliger un. Parce que si tu joues une compo qui est full accélérée de game, comme vous pouvez le faire par le passé, tu vas avoir une déperdition de gold différence qui va être énorme à cause des scuttles, des plates, du héros, etc. Mais si tu négliges en même temps le late game, dans une méta où les drags sont aussi importants, où le nashor a autant de value et les âmes sont aussi présentes, tu pourras pas avoir les deux. Je pense que les deux aujourd'hui sont tout aussi importants. Il faut avoir une compo qui puisse soit accélérer depuis l'early et disons gagner la game avant que la compo plus late game en face arrive, soit une compo qui soit équilibrée. Mais dans tous les cas, je pense pas que l'early puisse être négligé.
Ouais, je pense que de plus en plus, de toute façon, on l'a compris, la phase de lane est trop importante. Avoir un bon match-up, en tout cas un match-up qui est jouable avec lequel tu peux t'en sortir avec suffisamment de CS, ça compte trop dans le League of Legends de nos jours. J'ai eu pas mal d'échanges avec Duke à ce niveau et lui-même en est particulièrement convaincu. On va parler de ta philosophie de coaching. C'est quoi le coaching selon Striker? Est-ce que t'as des inspirations? Est-ce que t'as lu par exemple des livres d'autres coachs?
Coach Carter.
Comment tu t'es formé à ce niveau, tu vois? Enfin, comment t'en es arrivé là?
Au niveau du coaching, disons classique, traditionnel, dans le sport, etc., je me suis pas vraiment entouré de beaucoup de ressources. Pour ce qui est de la performance, de la productivité, etc., ça c'était le cas, mais c'était plus de base pour des raisons personnelles liées à mon job. Mais pour ce qui est de comment je vois le coaching, je pense que le coach aujourd'hui sur League of Legends, je le vois comme un accélérateur, quelqu'un qui va faire gagner du temps aux joueurs. Je pense pas qu'il y ait grand chose qu'un coach va apporter aux joueurs qui ne soient pas, disons, qu'ils n'auraient pas pu trouver tout seul. Par contre, je pense que là où un coach a de la valeur ajoutée, c'est dans le fait qu'il peut s'assurer que pour chaque session de scrim qui passe, chaque game LFL ou une autre ligue qui arrive, l'équipe puisse en récupérer le meilleur. Donc je pense que ce qui est important, c'est de se focus sur ce qui est le plus problématique pour une équipe ou ce qui marche le mieux et s'assurer qu'on gomme le premier et qu'on amplifie le deuxième. Donc pour moi, c'est voilà, je dirais que c'est un accélérateur de compétences et tu dois être le meilleur outil pour tes joueurs, quoi.
Ok, d'accord. Donc tu dois être l'outil qui aiguise les lames que sont les joueurs finalement. Tu me parlais de ton job et c'est intéressant, je pense, parce que voilà, on a tendance à voir maintenant le coaching sur League of Legends comme un job à part entière, mais c'est pas le cas pour toi, par exemple. C'est quoi ta situation personnelle?
Alors ouais, pour l'instant je suis pas full time. J'espère le passer un jour, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais pour le coup, cette année, en gros, je continue mon travail qui est d'être ingénieur d'affaires ingénieur d'affaires à l'export, quoi. Donc c'est un poste commercial où on gère plus ou moins voilà des problématiques qui vont avoir attrait à la productivité, à la prévision d'activité, ce genre de choses. Et à côté de ça, j'ai K-Corp. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez facile à concilier dans le sens où avec la situation qu'on connaît, on a été mis en télétravail. Je suis dans une boîte anglaise, donc ils sont très friands de ça. Ils veulent pas vraiment nous faire revenir de sitôt. Donc je peux concilier les deux dans ma journée et je peux être à 100% avec l'équipe et arranger le reste de ma journée pour finir ce que j'ai à faire, quoi, comme il faut.
Ça m'amène à une question, je t'interromps un peu, Chiffre, mais du coup tu parles de journée, et moi j'ai très envie de savoir un petit peu à quoi ressemblent certaines journées pour toi, justement bah du coup avec ce mélange de tes deux activités, et on va dire plus particulièrement les journées qui sont en marge de la compétition, je dirais, les journées d'entraînement, les journées juste avant le match, et la journée du match par exemple.
Alors, les journées de match, paradoxalement, c'est plus simple à aborder là-dessus, vu que on n'a pas le scrim qui se fait d'habitude traditionnellement de l'après-midi. Donc, je peux me consacrer plus ou moins entièrement à mon taf la journée. On arrive avec l'équipe, on a la réunion d'avant-match qu'on a déjà préparée la veille, le soir. On finalise, on se met d'accord sur les priorités en termes de draft, sur les différents scénarios, et ensuite on y va. Pour ce qui est des jours qui sont adjacents au jour de match ou en amont, j'essaye d'abattre le plus de boulot sur ce qui est de mon taf perso le matin. J'essaie de voilà être le plus productif à ce niveau-là, d'organiser mes journées pour avoir le plus de choses qui en termes de réunions, de calls, etc., qui se calent aussi à ce moment-là. Je rejoins l'équipe dès qu'on a un scrim, et à la fin de la journée, je repars checker ce que j'ai pas pu forcément faire, et je prépare la journée d'après, quoi.
Ça mouille le maillot. Comment tu es en termes de, on va dire, je te vois un petit peu comme un Sims avec un degré de justement compétence maximum. T'en es où au niveau de la jauge? Parce que ça a l'air de faire un sacré paquet quand même.
Ouais. Est-ce que t'as des temps morts dans tout ça quand même?
Alors actuellement, en ce moment, en soi, pas tellement. J'essaie d'en prendre un peu plus, mais j'ai tendance à me dire que si je prends des temps morts le soir pour des choses qui sont purement pas liées à LOL, je risque, je pense, de tomber derrière dans ma compréhension par rapport à des coachs qui peuvent faire ça toute la journée. J'essaie d'avoir une journée qui est dédiée en priorité voilà à mon travail à League of Legends, et si j'ai une petite heure à la fin avant de m'endormir, parfois ça va sur autre chose que LOL ou le taf, mais généralement, enfin, 5 jours sur 7, on va dire que c'est que ça. Mais ça me dérange pas, je le vois pas comme quelque chose de dur à soutenir, même si ça doit durer une année entière ou plus ou moins, peu importe, dans le sens où quand je suis sur LOL, j'ai pas l'impression de travailler. C'est pas un moment désagréable.
Ok.
Beau.
Très bien. Alors continuons, puisque donc on en sait un peu plus sur ton quotidien, et on voulait en savoir un peu plus sur la façon dont ça draft chez la K-Corp, parce que tu vois, on a Tréton dans l'équipe qui nous parle de Targamas et de son génie pour les drafts. Qu'est-ce que t'as dit, Twix?
Il fait que critiquer Tréton.
Oui, oui, complètement.
Il est très méchant.
Non, il est gentil en plus, Tréton.
Non, il est sympa, Tréton, le kiffe, bien sûr. Donc, comment vous faites, comment ça fonctionne le système de draft du côté de la K-Corp? C'est toi qui as la main sur le truc et qui a le dernier call, ou c'est les joueurs? Comment s'organise tout ça?
Alors, à ce niveau-là, on est très participatif. Au niveau du process, moi, le seul truc que je demande absolument aux joueurs, c'est d'arriver chaque semaine avec des idées de match-up, de pick qu'ils veulent essayer, etc. Et de savoir exactement quelles sont les priorités dans ce qu'ils pensent être fort. Et j'accompagne ça. Si on est sur quelque chose de beaucoup trop fantaisiste, on coupe court à la discussion généralement. Mais à partir du moment où il y a un argumentaire, on valide ça, on le met dans une liste de champions qui est à tester ou à renforcer, à entraîner, peu importe. Sur les scrims, on essaie de run des compositions qui vont vers ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que généralement, veille de match, peut-être deux jours avant, ça dépend des matchs, on se regroupe et c'est là où Targa a beaucoup d'importance parce que comme te le dit Tréton, Targamas, bon, j'ai pas travaillé avec énormément de joueurs, mais je parle quand même pas mal de joueurs sur la scène FR et j'ai jamais vu quelqu'un qui a cette facilité en fait pour la phase de draft. Il a un gros input là-dessus. Il a souvent des premiers scénarios qui lui viennent en tête. On part de là. Et c'est à ce moment-là que ça devient collaboratif, dans le sens où les joueurs vont pouvoir indiquer si sur ces scénarios-là ils se sentent confort pour ceux qui first pick. Si on a des flex, on voit les différents scénarios aussi. Et mon rôle à moi là-dessus, c'est de s'assurer que tout le monde est d'accord avec le résultat final, parce que je pense que le confort est très très important dans League of Legends et pour l'ambiance de façon générale. T'as pas envie d'avoir un joueur qui est tilté parce qu'une game a été draftée comme il le voulait pas. Et si jamais il y a au moment du stage, parce que ça peut arriver, un désaccord et que sur le feed on n'a pas de décision qui est prise, à ce moment-là je vais couper en deux et je vais call le pick qui doit être fait ou le ban qui doit être fait. Mais j'essaye de pas être dans cette situation-là parce que ça veut dire qu'on n'a pas été préparé finalement.
Ok. Donc finalement, c'est tu tranches, mais c'est vraiment en dernier recours quoi que tu fais ce genre c'est de ça. Truc. T'aimes pas trop de se retrouver dans cette situation.
Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que le fait d'arriver à l'idée de trancher, ça veut dire qu'il y a eu un moment où l'équipe n'était pas synchronisée. C'est plutôt ça qui me... Après, moi, prendre la responsabilité, ça me gêne pas. Je l'ai fait sur un des pics contre Géo. Je pense que j'ai fait à un moment donné une erreur là-dessus, et c'est pas grave, j'ai appris là-dessus. L'équipe entière a appris, du coup, on communique mieux sur les drafts aujourd'hui, et ça se passe mieux, quoi.
D'accord. Alors, maintenant, on va en savoir plus sur le style de la K-Corp. Bon... On commence à le connaître un peu, tu vois, on vous voit beaucoup vous battre dans les games. Qu'est-ce que tu essaies d'insuffler à tes joueurs à ce niveau, tu vois? Est-ce que la K-Corp qu'on voit actuellement dans les matchs, c'est la K-Corp idéale pour toi? Genre celle qui...
Hein? Five Pillars.
Five Pillars, exactement.
Les cinq piliers de Yamato.
La Yamato. Mais est-ce que la K-Corp bagarreuse, c'est la K-Corp finale pour toi? Ou est-ce que tu aimerais un autre style plus à cheval sur d'autres? Tu vois, c'est quoi le style final que tu cherches pour cette équipe?
C'est sûr qu'on est une équipe qui se bat beaucoup. Et je pense que si on jouait comme en scrim, il y aurait beaucoup trop de morts on stage. Maintenant, les joueurs arrivent quand même à se réguler. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux enlever aux joueurs, dans le sens où je vois une partie de LoL comme un tableau où t'as des fenêtres qui se succèdent et ces fenêtres peuvent être en gros vertes ou rouges. Moi, mon rôle dans le fait de tempérer les joueurs, c'est de les aider à comprendre quand est-ce que la fenêtre est verte, en fonction des summoners, en fonction de l'état de la map, est-ce que la fight est pertinente ou pas, et quand est-ce qu'elle est rouge. Mais à aucun moment je me dis qu'il faut que le style général soit moins agressif. Je pense que t'as jamais trop d'agressivité, c'est juste qu'il faut savoir le faire au bon moment et pour les bonnes raisons.
D'accord. Et t'arrives à convaincre tes joueurs à ce niveau, t'arrives à leur...
Ouais. Généralement, ça se passe plutôt bien. En review, à partir du moment où t'argumentes avec un joueur et qu'il comprend pourquoi tu lui indiques que c'était nul de fight, même si c'est quelqu'un comme Adam qui a une tendance de base à énormément fight, il va forcément comprendre. Parce que je pense que le principe, c'est pas d'être autoritaire pour l'être, c'est de donner un argumentaire et d'indiquer pourquoi en gros ton avis il est différent de celui du joueur, quoi. Mais si tu arrives à argumenter comme il faut, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Et parfois, tu as tort, parce que tu prends pas en compte certains aspects, parce que tu connais pas autant le match-up, parce que tu connais pas autant les interactions entre les sorts. Et à ce moment-là, bah, c'est très bien, parce que du coup, souvent, c'est des choses que les autres joueurs n'ont pas aussi. Donc, ça va apporter une connaissance globale sur quelque chose de micro à tout le monde, ce qui est très important, notamment quand tu sidelane. Et puis, toi, tu apprends aussi quelque chose, quoi.
Ok. Ok. Alors du coup, maintenant, j'aimerais savoir ce que vous faites bien et ce que vous voudriez améliorer vraiment. C'est quoi vos axes de développement, tu vois? Parce que moi, je trouve que vous vous battez bien. Votre équipe, elle a des balls, tu vois. C'est clair. Il y a des calls créatifs. Moi, je me souviens votre comeback contre Solari, notamment quand vous avez occupé le bot side et que vous avez abusé des Pikmin d'un Maokai qui était dans le dur jusque-là, tu vois, c'est une situation de jeu qui était vraiment stylée. Donc j'ai l'impression que vous avez une équipe qui est créative, qui sait être agressive. À ce niveau-là, je considère que vous êtes assez fort. Mais qu'est-ce que tu voudrais améliorer, toi, en tant que head coach de l'équipe ?
Comme tu l'as dit, pour créer du jeu, pour faire des choses, on est très bon. Là où je pense qu'on a encore matière à s'améliorer, sans forcément rentrer dans les détails, même si on pourrait, c'est dans la vérification et dans la sélection de quand est-ce qu'on veut créer de l'action. Je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe qui, dans l'exécution, est bon, se fait confiance. C'est très important pour avoir un jeu proactif et je pense que c'est indispensable en saison 11. Parfois, ce qui me... Voilà, moi, à titre personnel, ce qui me tilte un peu, c'est que on va pas vérifier toutes les petites cases à cocher avant de déployer un move. Donc parfois, on va le faire sans penser forcément à une TP, sans réfléchir au fait que certes c'est un 4v4, mais notre joueur qui est le mieux dans la game, il est pas là et le leur, il est là. Donc disons que c'est un peu plus de prudence et de réflexion dans la prise des fights aujourd'hui.
Continue.
Il y a ça et il y a autre chose sur lequel j'aimerais qu'à la fin de l'année on soit vraiment bon. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une connexion et une compréhension des match-ups et des waves finalement de chacun qui permettent à toute l'équipe d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Parce que je pense que le jeu vraiment commence sur la première wave et qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas faites, même dans des régions majeures, selon moi, qui pourraient l'être si tous les joueurs avaient le même niveau de connaissance sur leur match-up. Donc, c'est quelque chose sur lequel je pousse tous les jours pour qu'il y ait de l'échange entre les joueurs et que ce qui est évident pour l'un le devienne pour tout le monde. Je pense qu'on arrive de plus en plus vers ça. Je pense à la game contre MCVS, même si le dive n'est pas totalement bien orchestré. Je pense qu'on doit soit dive une wave plus tôt, soit une wave plus tard, mais celle-ci était un peu bizarre. Mais en soi, dans l'idée, c'est ça, quoi. C'est être proactif dès l'early et savoir ce qu'on peut abuser au niveau des waves. Que ce soit en termes de freeze, de dive ou okay. de recall.
Ouais, dans tous les aspects. Et justement, pour toi, là où je voulais en venir, c'est qu'est-ce que tu considères comme étant... je dirais qu'il y a deux sens à ma question. Il y a le sens où... Qu'est-ce que tu considères comme étant une erreur de type carton rouge, quelque chose qui... une erreur qui t'affecte particulièrement, le fait qu'on suive pas un gank niveau 3, le fait qu'on...
Qu'est-ce qui te trigger?
Qu'est-ce qui te hard trigger? Et de l'autre côté, quel est un petit peu l'aspect du jeu? Tu parlais de la micro tout à l'heure et je voudrais un petit peu rebondir dessus, mais quel est un petit peu l'aspect du jeu que tu apprends le plus souvent à des joueurs que tu rencontres?
Alors, ce qui va me trigger le plus, mais c'est assez lié en soi.
D'accord.
C'est quand on peut avoir un avis différent et que je suis sûr de moi sur un détail qui va être de l'ordre de la laning phase et qui va impacter la macro de façon générale. Si on est sur quelque chose de type mal gérer une wave, ne pas la crash sur la bonne. Overstay alors que le freeze en face n'est pas possible, ce genre de choses, moi c'est des choses sur lesquelles je râle beaucoup parce que c'est, je pense, des choses qui sont de l'ordre du laning, qui peuvent être même travaillées en solo queue, donc c'est pas comme si on était sur quelque chose de très qui puisse pas être appris avant d'arriver dans une équipe comme K-Corp, quoi. Et de la même façon, du coup, ce qui est souvent apporté aux joueurs qui n'étaient pas forcément utilisés avant, ça va être ce qui est de l'ordre en tout cas, sur le point de vue personnel, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la wave 1 à 6, le positionnement autour d'une wave, avec quel spell tu starts, à quel gold tu veux back, et du coup, en fonction de tes golds, comment tu vas gérer ta wave, et comment tu interagis avec ton jungler dans le vocal par rapport à ça.
Très bien, des aspects qui semblent un peu élémentaires, mais qui sont capitaux. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est des détails qui font. Enfin, c'est ce genre de détail qui fait toute la différence. Oh, on a Team Niski.
Il y a Niski sur le chat.
Cassé Niski.
Il y a Niski sur le chat. Ouais. Félicitations Niski pour la victoire d'hier au passage.
Et quel Azir.
C'était un bel Azir. On voulait parler un peu plus de l'actualité maintenant de la K-Corp, puisque Striker, vous avez un très gros match qui vous attend face au BDS la semaine prochaine, match qu'on attend beaucoup, on l'a pubé un peu en LEC aussi. Tu penses quoi du rapport de force entre vous et eux? Vous êtes les deux nouveaux arrivants en LFL, vous êtes dans le top du classement actuellement. Vous êtes deux équipes qui semblaient avoir les moyens de viser haut. Comment tu abordes ce match sans rentrer dans des détails qui oui. permettraient sans doute de gagner et de jouer la game, tu vois, mais
ou alors en privé.
Pas en privé après, mais voilà, dis-nous en plus sur ton état d'esprit par rapport à cette rencontre et le rapport de force un peu entre vos deux équipes.
Je pense que ça va être le match le plus important qu'on va jouer sur la phase des matchs aller, parce que aujourd'hui, dans la façon dont on voit la ligue, c'est la dernière équipe sur laquelle on doit faire quelque chose. En soi, il y a Geo et Misfits contre qui on a perdu, mais pour certaines raisons, on sait qu'on peut les matchs, on n'a pas vraiment peur d'eux. BDS, c'est entre guillemets le dernier test, donc en ce sens, ça va être important pour nous. Ça ne veut pas dire que si on perd, on aura déjà perdu entre guillemets la confiance pour aller jusqu'au titre, mais c'est sûr que c'est important. Ça nous permet de solidifier la première place. Ça nous met dans un état mental où on est entre guillemets au-dessus de tout le monde, même si j'aime pas vraiment dire ça dans le sens où c'est que l'early de la saison et tu vas avoir des changements de méta qui vont opérer, des changements de champion pool. Donc peut-être que là on est bien, mais peut-être que dans 3 semaines on est milieu bas de tableau quoi. Mais en tout cas c'est sûr que BDS ça va être important. La semaine de façon générale va être importante parce que je pense que BDS a montré un bon état de forme depuis le début et Game World, je pense c'est une des équipes qui progresse le plus vite actuellement. Donc ça va être intéressant. Après BDS voilà ça va être particulièrement important voilà parce que comme tu le dis c'est les deux équipes qui sont top 1 ex aequo. Je pense qu'ils ont un très bon mid jungle. Mais pour ce qui est de la ligne phase pure, on a, je pense, le meilleur mid laner à titre personnel dans ce LFL. Que je vois de LFL, ouais. Et pour ce qui est du mid jungle, on a aussi Syncroft qui est très intelligent et qui avant même le match connaissait, avant même qu'on en parle avec lui, les enjeux du match et ce qu'il fallait faire pour bloquer BDS.
Ok. Donc c'est un match sur lequel t'es confiant quand même.
Ouais. Plus confiant que sur les matchs précédents, parce que je trouve qu'en scrim on a une bonne productivité. Il y a rarement un jour où on n'apprend pas quelque chose, où on se met pas d'accord sur quelque chose en tant qu'équipe. Et même au niveau de la méta, je pense qu'on a une bonne lecture actuellement.
Ok, super. Dernière petite question sur la LFL et sur la K-Corp en particulier. Pourquoi est-ce qu'il faut croire dans la K-Corp finalement, voilà le au-delà bien sûr de l'engouement de Kamel et tous les gens qui travaillent avec lui, tu vois, dans ce projet, mais genre sur le jeu, sur la force de votre équipe, pourquoi est-ce qu'il faut croire en vous? C'est vrai, là ça va bien, tu vois, mais qu'est-ce qui nous dit que effectivement dans un mois ce sera pareil? Pourquoi est-ce qu'on doit croire encore dans la K-Corp pour la suite?
Je pense qu'on peut croire en la K-Corp pour la suite parce que justement, ce qui va se passer dans un mois, même si on n'est pas aussi en avance, on essaye toujours d'avoir un peu d'avance là-dessus. On essaie pendant nos entraînements de préparer les matchs, mais aussi de préparer la suite. On essaie d'update notre champion pool, même si c'est pas forcément montré en LFL, pour pouvoir s'adapter à des nerfs d'items ou de champions. Voilà, je pense que ce qui est important quand tu participes à une ligue, c'est tes process dans le scrim. C'est à quel point tu improves chaque jour. Et là-dessus, je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, pour ce qui est du marathon, je pense qu'on aura les armes qu'il faut, même s'il y a un changement de méta.
Ok. Et d'ailleurs, en changement de méta, on va en parler ouais. après la pause, hein, mais on va aborder un peu ce qui est annoncé pour la jungle. Et qui pourrait un peu changer la donne, bien sûr. On va faire une petite pause de 5 minutes, vous tous qui nous regardez, petit break de 5 minutes, et on se retrouve juste après, toujours avec Striker. On va parler de plusieurs sujets, déjà les nerfs à venir dans la jungle, Également le petit débat qui est arrivé en Amérique du Nord sur la volonté de certains owners de mettre fin à la limitation des imports et donc de les vannes sont ouvertes, on recrute tout ce qu'on peut, des équipes coréennes, chinoises et tout. Et enfin, on discutera également de. Alors, ça va être un peu sur la Corée, sur une interview récente qu'a donné Flecker, qui est assez intéressante, et sur également en Europe, quel Big Four pour le LEC. Voilà, donc ça, c'est des discussions qu'on aura juste après la pause. On se laisse pour 5 minutes de break et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission, toujours avec Striker et Twix. Et nous sommes de retour, toujours dans Hashtag Analyse avec Twix et notre invité de la semaine, Striker, le head coach de la Karmine Corp. Messieurs, on va enchaîner sur les sujets de discussion. On va parler de l'Amérique du Nord, puisqu'il y a un sujet qui est sorti cette semaine dans l'émission de Travis Gafford, le journaliste qui est un peu à la pointe de toute l'actualité NA. Et dans son talk show, il nous a parlé d'une rumeur qu'il avait entendue de certains owners d'Amérique du Nord qui voulaient mettre fin à la limitation d'import. Bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, comment ça fonctionne actuellement? Quand vous avez une équipe de League of Legends dans une région, vous devez avoir au minimum 3 joueurs qui ont résidence dans la région et derrière vous pouvez avoir 2 imports. L'idée du coup sous-jacente à tout ça, c'est du côté de certains alors il a pas dit de nom pour des owners nord-américains, mais on a cru comprendre quand même que du côté de Team Liquid ça se chauffait un peu pour ça. On a du fric du côté de Team Liquid. L'idée c'est de mettre fin à cette restriction et de pouvoir importer tous les joueurs qu'on veut. Donc, possiblement, avoir 5 joueurs coréens, 5 joueurs européens, 5 joueurs chinois. Bref, voilà, 5 joueurs qui n'ont pas résidence en Amérique du Nord. Au passage, cette règle de la résidence était notamment arrivée après 2014, parce qu'en Amérique du Nord, on avait LMQ, une équipe que les jeunes viewers de League of Legends ne doivent pas forcément connaître, mais qui, à l'époque, était constituée de 5 joueurs chinois. On avait 5 joueurs chinois à l'époque chez les LMQ, ils étaient allés Worlds, etc. Et on avait fini par se dire que bon, c'était pas terrible quand même d'avoir une équipe avec 5 joueurs chinois qui représentaient la région NA. Première petite question à chaud. Twixou, toi, c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens ou pas? On va développer bien sûr par la suite des différents arguments, mais toi, à chaud, t'es chaud ou t'es pas chaud pour ça?
Alors, moi, je vais être très clair. Ça va directement et profondément à l'encontre de tout ce en quoi je crois et de tout ce pourquoi je me bats depuis que je suis dans l'e-sport. C'est-à-dire que se battre pour la construction d'un écosystème qui commence par un ancrage local du jeu, qui te permet d'avoir des compétitions locales occasionnelles qui ensuite te font grimper à plusieurs échelons jusqu'à arriver là où ton destin t'emmènera plus ou moins. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux commencer de solo queue et te retrouver en LFL et ensuite un petit peu plus haut. Moi, je crois à cette montée-là parce que je crois en la progression des générations et je suis convaincu que les joueurs d'aujourd'hui sont nettement plus costauds et ont plus de potentiel que les joueurs d'hier. Parce que c'est débile, mais tu commences à un palier beaucoup plus haut de base, quoi. C'est-à-dire que pour des boomers comme toi et moi, une INSEC, c'est quand même un truc qu'il n'y avait pas avant. Une INSEC, pour les gens d'aujourd'hui, c'est comme la cite un canon. Tu vois, si tu le fais pas, t'es plus ou moins une merde. Et donc, du coup, je comprends pas du tout l'intérêt de faire ça. Sauf que simplement d'accepter l'échec de tout ce qu'ils ont essayé de produire. C'est-à-dire que eux, cet objectif de développement de scène où on récupère un niveau bas et on fait monter un système d'ascenseur finalement, ils ont tenté de le lancer. Ça a été une des premières régions justement à le lancer. Bon, après Corée du Sud, etc., puisque c'est terre d'e-sport et compagnie. Mais ils ont essayé ça avec leur programme de fac, etc., avec leur tournoi inter-universitaire et compagnie. Et juste, ils ont déconné, ça a pas marché quelque part, et maintenant il y a des gens qui pensent à d'autres virages. Mais pour moi, c'est vraiment tellement pas la bonne direction. C'est juste même c'est l'opposé.
Striker, c'est quoi ton premier avis sur la question?
Mon avis il est plutôt également négatif. La première question que je me pose, c'est parce que j'ai pas vraiment suivi l'émission de Travis Gafford, ni même la réaction de Croc qui a fait un sujet, il me semble, dessus. Mais la première question, ce serait en gros, qu'est-ce qu'il arrive des autres régions? Est-ce que du coup cette limitation qui saute, ce serait le cas pour tout le monde? Parce que si c'est pas le cas, on donne un avantage complètement injustifié à une région sans aucun fondement. Et je pense que quand tu es dans un environnement compétitif, ce qui est vraiment, enfin ce qui donne toute sa valeur à l'e-sport, c'est que ça peut être pratiqué par tout le monde et on est sur quelque chose où il n'y a pas entre guillemets d'unfair advantage. Bon, c'est sûr que si tu habites à Amsterdam et que tu as 15 de ping, tu commences avec un avantage par rapport à quelqu'un qui est un peu plus loin, certes, mais de façon générale, voilà, il y a cette équité. Ça enlèverait cette équité. Je pense que au niveau de la représentativité, c'est pas fou non plus, parce que mine de rien, je pense que le viewership et les viewers sont intéressés pour voir des gens comme eux, finalement, entre guillemets, participer. On l'avait vu sur StarCraft. StarCraft, on n'avait eu pas de limitation parce que Blizzard, c'est un éditeur qui est très les mains en dehors de l'e-sport, qui laisse s'autoréguler. Et beaucoup de structures, même occidentales, recrutaient des joueurs uniquement coréens. Et on se retrouvait avec des match-up coréens de partout. Je pense que ça heurterait aussi les joueurs, même si aujourd'hui, bon, on n'est plus dans ce fantasme de les joueurs coréens sont de façon inhérente meilleurs que les joueurs occidentaux ou les joueurs chinois, parce qu'on a vu des imports qui n'ont pas marché. Mais voilà, si c'est le cas pour les NA, pour moi, ça devrait être le cas pour tout le monde. Et si c'est le cas pour tout le monde, il y a des dérives.
Ouais, forcément.
Demain, Team Liquid pourrait acheter la line-up d'Amon, quoi.
Oui, bah c'est l'idée. C'est parfaitement possible dans l'idée. Et c'est vrai qu'on se dit que celui qui aurait le plus de fric à l'international, finalement, pourrait tout prendre. Et je te rejoins sur ce point. C'est vrai qu'il faudrait, si on le fait pour une région, il faudrait le faire pour toutes. Et ça peut être un premier problème. Maintenant, messieurs, il y a quand même un truc dans cette histoire, c'est qu'on le sait, il y a une inflation des salaires qui est absolument, qui est assez délirante en Amérique du Nord. Et un des arguments qui pourrait aller en faveur de ce truc, parce que la région Amérique du Nord de base est pas forcément aussi compétitive parce qu'il y a des problèmes de ping, etc. Bon, ça c'est des premiers arguments qui pourraient peut-être justifier un traitement différent de la région, mais aussi la résultante, ça pourrait être une baisse des salaires. Puisque regardez par exemple un joueur comme Impact. Impact, c'est un joueur qui a énormément d'XP, qui a été un import à la base et qui maintenant est un joueur résident. Et lui, vous prenez dans votre équipe, il vous coûte plus d'un million. Pour avoir un Impact de nos jours, ça coûte ce genre de prix. Est-ce que mécaniquement, finalement, le fait de pouvoir importer des joueurs comme ça et de ne plus avoir ces joueurs qui coûtent hyper cher dans ta ligue, mais c'est les meilleurs, donc t'es obligé de te plier à leur prix. Est-ce que finalement ça pourrait pas être bénéfique pour la région NA et ça pourrait pas faire baisser un peu cette inflation des prix? Twixou, t'en penses quoi?
Bah, je pense que la problématique, elle est dans le statut de résident et elle est pas forcément à aller chercher plus loin. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où il y a des profils qui sont nettement plus value que d'autres, étant donné qu'ils ont toujours pas été remplacés. Et c'est un petit peu les conséquences du manque de développement de leur propre scène qui vient leur mordre le derrière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces profils-là, les profils type, bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais Biersen, Impact et tous les autres, Jensen et compagnie, c'est qu'ils sont toujours top tier sans être résidents et que derrière, ne pas avoir deux imports, c'est presque comme être considéré comme étant un debuff pour l'Amérique du Nord. Et je pense que la problématique, elle se situe juste ici, à mon sens.
La formation, plutôt, du coup, ouais. Ça mettrait fin aux joueurs NA si on ouvrait tout ça, Striker, tu penses? On est dans les suppositions, bien sûr, mais est-ce que ça voudrait dire fin du joueur nord-américain, tu vois?
Je pense que ça pourrait, sans être sûr. Par contre, ce qui est certain, c'est que, à mon avis, au niveau des joueurs qui pratiquent la solo queue, ils auraient moins d'espoir, entre guillemets, d'accéder au LCS, étant donné qu'ils verraient de plus en plus d'imports et qu'ils verraient juste des joueurs prendre leur place parce qu'ils sont déjà connus, qu'ils ont déjà une certaine expérience, un certain bagage technique sur le jeu. Donc, au niveau de la player base même si la player base qui se consacre à l'idée de monter en LCS, c'est pas la plus grosse, mais déjà pour l'écosystème rookie entre guillemets NA, ce serait pas une bonne chose. Je pense que il faudrait plutôt, comme le disait Twix, essayer de faire step up la région. Certes, ils ont moins de joueurs qui sont en ranked qu'en Europe ou en Corée. Certes, il y a des soucis de ping. Maintenant, nous, on a quand même des gros joueurs qui arrivent de pays qui te donnent pas le meilleur ping non plus, c'est-à-dire au-dessus de 70. On en a chaque année. Moi, ce que je me demande, c'est sans enlever quoi que ce soit à ces joueurs, comment un Impact ou un Bjerksen a pu rester au top de la région alors que c'est des joueurs qui étaient là depuis 2013. Nous, 2013, les grands midliners qui ont fait l'Europe, si aujourd'hui ou si l'an dernier, parce que l'an dernier, Bjerksen s'en est allé, il jouait, je pense qu'il se serait fait détruire. Parce qu'on a un écosystème et une émulation qui fait que la compétitivité est plus grande, mais pour moi le fait que les NA n'aient pas la même population, qu'ils aient pas les ERL, ça ne les dédouane pas de la responsabilité de développer des joueurs. Ça veut juste dire qu'ils doivent se battre avec d'autres armes, notamment financières, c'est ce qu'ils ont, et je pense qu'il y a des gens qui ont des idées là-dessus. Qui pousse pour avoir des programmes qu'on sait efficaces, notamment entre les universités et le sport en Amérique, qui soient calqués sur l'e-sport. Je pense notamment à Evil Geniuses qui est pas mal en avance là-dessus, il me semble. Je crois que Android Divs aussi, la plupart des équipes ont un programme avec des universités. À mon avis, c'est plus l'idée de se développer sur leurs forces, qui sont notamment financières, pour garantir à des profils un avenir dans l'e-sport, mais aussi un pied à terre dans le monde réel, si enfin, entre guillemets réel, si je peux me permettre, si ça foire, qui leur permettra d'augmenter le nombre de personnes qui se projettent vers l'e-sport, d'augmenter la qualité de l'encadrement de ces joueurs avant qu'ils arrivent en LCS. Une fois qu'ils arrivent en LCS, si c'est fait comme il faut, ils ont un bagage technique et un niveau qui est plus élevé. Et voilà, accompagné de certains imports, je pense qu'il y a matière à faire. L'an dernier, en soi, c'était pas encore du tout la meilleure région, mais il y avait des rosters, notamment Team Liquid, qui pouvaient faire quelque chose au World, je pense, à peu de choses près.
Et je voudrais juste terminer sur un point pour vraiment donner de l'ampleur à ce que tu dis. Des joueurs qui ont été bons, tu prenais l'exemple d'Impact 2013, qui sont toujours au top au sein de cette région. Bien sûr, il y a des profils exceptionnels comme le sien, mais tu marques un point ici, c'est qu'il y a une rétention des joueurs en Amérique du Nord qui est nettement plus forte. C'est-à-dire que là par exemple, juste pour déconner, j'ai été voir les line-up.
Tu penses à Walter Tom?
J'ai été regarder les line-up d'équipe Academy. J'ai Lourlo, Ekedian, Darshan, Zion Spartan, mec. Zion Spartan.
C'est les vieux de la vieille.
T'as
en Academy.
Walter Tom, Rio, Laglou. Enfin, il y a tout le monde. Il y a absolument tout le monde.
C'est la grande finale.
Parce que nous en ERL, on a ce concept du tu prends un vétéran, tu vois, pour développer des rookies à côté, et eux en NA, c'est tu prends 5 vétérans et bon, tu développes pas grand-chose. mais voilà, c'est la fête et tu tentes de gagner la Ligue Academy et à un moment peut-être qu'ils vont repasser en Ligue 1.
Bah il y a un peu de ça et du coup tu vois un Zion Spartan qui repop à la top lane, mais je veux dire c'est pas crédible, enfin.
C'est pas crédible. Tu voulais dire quelque chose, Striker?
Non, je veux dire, c'est vrai que même aujourd'hui, avec les outils qu'ils ont, je pense que ça peut être mieux fait, sans jeter la pierre à qui soit, dans le sens où on a chaque année des vétérans qui arrivent de ligues, pour le coup, majeures, qui, pour moi, montrent pas à quelques exceptions près. Alfari, par exemple, je pense pas que ce soit le cas, mais certains ne montrent pas vraiment une volonté de continuer à se développer compétitivement. Et on prend des gens qui ont déjà pic dans des régions supérieures, on les fait venir, on les surpaye par rapport à leur salaire précédent et on pense que dans un environnement moindre de enfin plus disons moins intensif et qui a trait moins au travail acharné, ils vont garder la même motivation. Je pense à Sword Art cette année, mais il y en a eu d'autres, tu vois. Même s'il y a des exceptions, je pense que Corjiji est une belle exception parce que lui il a des motivations qui sont aussi dans le développement de toute une scène, etc. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression que la NA donne des gros chèques à des joueurs qui ont déjà fait leur carrière au lieu d'aller chercher des rookies, notamment au niveau des ERL en Europe ou même sur des serveurs qui sont moins regardés. Je pense au Vietnam. C'est autant que c'est un peu plus même, je crois, que le serveur U-West. Un peu moins on prend toute l'Europe avec UNE, mais c'est autant de joueurs dans un seul pays qui sont classés. Et le niveau là-bas est très très bon. Mais vu qu'on n'a pas forcément accès aux mêmes plateformes de streaming qu'eux, etc., on n'est pas aussi conscient de ça. Et pourtant, il y a beaucoup de joueurs qui sont complètement qui parlent anglais très bien. Donc cette barrière de la langue qu'on peut avoir parfois avec des Coréens ou des Chinois, ça ne serait même pas un souci. Et en plus de ça, ce serait moins cher. Donc
Il y a des pistes à explorer, hein. Je vous rejoins à ce niveau marché, et bon, moi dans tous les cas je suis pas un grand fan non plus de cette proposition et je pense que ça aboutirait peut-être à un pillage un peu trop intensif de certaines des autres régions, mais voilà, on verra. Je pense que dans tous les cas il y a assez peu de chances que ça arrive, mais c'était un sujet intéressant de discussion. On va passer maintenant, messieurs, au sujet suivant. Et le sujet suivant, c'est la jungle. On en avait parlé un peu en préambule tout à l'heure lors de ton interview sur toi-même et sur la LFL, Striker. Du coup, la jungle, on a eu quelques nouvelles. C'est un grand sujet de discussion. Les top players en solo queue se plaignent toujours de l'impact des junglers dans leur game. On le sait. On a l'impression que la méta s'est vraiment cristallisée autour de quelques picks qui sont excellents pour power farm et qu'au-delà de ça, bah, c'est difficile d'exister et rip un champion comme Lee Sin qui pourtant, je trouve, est un des meilleurs champions à voir évoluer dans la jungle. Du coup, on a les propositions de marketeurs. Si vous ne le suivez pas et que vous voulez des news sur les patchs, eh bien, je vous le conseille, c'est sur Twitter. Grosso modo, c'est nerf des gold, nerf de l'XP et on augmente également la tankiness des camps. Donc on rend la jungle beaucoup moins attractive en général. Voilà pour donc tout d'abord, j'aimerais connaître votre avis sur la jungle, messieurs Twix, ton avis sur la jungle actuelle.
Eh bien la jungle actuellement est dans une situation où le passing et le timer de respawn des camps est tout simplement quasiment optimisé frame perfect pour des junglers qui ont une certaine vitesse de clear. Et il l'exploite, et le fait est que l'accès aux ressources est comparable, si ce n'est supérieur dans pas mal de cas, puisqu'il n'y a pas autant de perturbations, enfin ça dépend des games bien sûr, mais il n'y a pas autant de perturbations de base que si tu as ton lane opponent en face de toi, et qui fait que tu as donc accès à un max de ressources, et que donc du coup si tu as des ressources, bah tu joues au jeu, et puis tu es devant, et puis voilà. Aujourd'hui, l'approche qui est prise... Enfin, le problème qui est signalé, c'est l'impact trop grand de la jungle. C'est un petit peu paradoxal parce que à la fois c'est un rôle qui farme énormément, mais c'est un rôle aussi qui a des fenêtres de gants qui sont beaucoup plus restreintes, ce qui fait que les très très bons joueurs vont avoir des fenêtres d'opportunité avec des junglers à clear optimal de 10, 20 secondes ou des choses du genre et vont parvenir à ce synchro. Et ensuite, si ça passe, évidemment, là tu roules littéralement sur la gamme. Il y a un peu ce sentiment-là. Qui ressort et qui frustre beaucoup de players, la fameuse jungle diff. Mais je trouve que l'angle qui est envisagé par Mark Yeter, est un angle qu'on a déjà exploré par le passé et qui n'avait pas donné satisfaction et qui avait donné droit à d'autres modifications, notamment l'apparition de mécaniques qui ne convenaient pas du tout à la jungle, notamment le catch-up XP. Donc, je comprends pas la direction qui est prise. J'acquiesce de l'existence du problème entre guillemets, mais personnellement, je trouve que la jungle est dans un meilleur état qu'auparavant, parce qu'on en a connu qui était bien sale. Voilà, pour faire simple.
Ouais. C'est quoi ton avis, toi, Striker, sur l'état de la jungle ? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, cette jungle actuellement ?
Alors, à titre personnel, en solo queue, je l'aime pas. Parce que on est sur quelque chose où les jungles vont faire tout un clear avant de chercher une option et du coup ils se retrouvent généralement sur une extrémité de la map et donc quand tu fais ta phase de lane, le millénaire en face il est pas puni même s'il fait n'importe quoi avec sa wave. Donc là-dessus à titre personnel voilà, c'est pas le plus intéressant. Je pense aussi que d'un point de vue compétitif, même si ça affecte en vérité tout le monde mais un peu plus les rookies, je pense que c'est pas vraiment optimal d'avoir un jeu qui est aussi polarisé et axé sur le farm, parce que il y a certaines compétences en tant que jungler que tu développes plus. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont arrivés en pro l'an dernier, en division 2, des junglers, qui sont arrivés avec cette méta. Là, ça va faire 2 ans à la fin de l'année qu'ils seront là, et ils auront connu une seule méta. Qui est celle du FK Farm. Ce seront des junglers qui vont pas s'attarder sur les méta ou les méthodes de jungling qu'on avait avant. Je pense à la Trinité, Elise, Jarvan, Lee Sin, ce genre de choses. Et qui, parce qu'ils vont pas être exposés aux mêmes situations que des junglers plus expérimentés, vont pour moi avoir un processus d'apprentissage qui va être ralenti à ce niveau-là. Il y a certains rookies, pour moi, qui vont moins comprendre comment jouer autour des lanes, parce qu'aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Après, est-ce que les changements qui sont présentés sont les plus pertinents pour avoir un retour d'une jungle plus diversifiée? Je sais pas, honnêtement. Je pense qu'il faut voir une fois que ça passera. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que la jungle, c'est le poste qui a besoin le plus de se renouveler entre chaque saison. Et le fait que ça n'ait pas été fait, À titre personnel, en tant que viewer, purement, parce que je regarde aussi beaucoup de compétitions purement en tant que fan, ça m'embête un peu parce que le jeu est un peu trop, comme disait Twix, optimisé à ce niveau-là, et du coup assez facile à lire.
Ouais, c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec situation de full clear, très stéréotypé. Et c'est pour ça qu'on en avait parlé vite fait sur Twitter, mais j'espère que tu avais apprécié la petite victoire des Freddy de Brion sur les Damwon. Parce que justement, on a Oumti, le jungler de Freddy de Brion, qui lui pour le coup a connu les méta précédentes, et il a fait des choses qu'on voit rarement dans le jeu actuellement avec la jungle.
Oui, complètement. Le gank en transition mid, c'est un truc qu'on voit de moins en moins. Qui te met pas complètement derrière en termes d'XP si c'est bien fait, et sur lequel, même si tu perds un camp par exemple en termes de vitesse de clear, est largement récompensé par l'avantage que ça peut donner à ton mid, et dans cette game notamment contre l'équipe du monde qui est, enfin la meilleure équipe du monde, en tout cas le champion en titre, a été super bien fait. Mais c'est vrai que sur moi j'avais même pas pensé, mais effectivement Oumti c'est quelqu'un qui a connu la jungle depuis longtemps et qui a donc ses réflexes encore. Mais si on continue et qu'on a un ralentissement de changement de méta comme c'est le cas depuis plusieurs années et qu'on reste sur une jungle aussi PVE entre guillemets, bah on verra de moins en moins ça, et je pense que même pour le spectacle en soi c'est pas fou.
Mais du coup là, parce que la situation qu'on voit, c'est que dans la jungle actuelle, soit il va falloir spammer les lanes comme avant, soit il va falloir être encore plus AFK jungle quand on voit la valeur des camps qui baisse en général, donc ça convient pas forcément. Le catch-up XP, t'en parlais un peu tout à l'heure, Twix, tu penses que c'est pas du tout une bonne solution pour remettre un peu la jungle à niveau, et du coup, les jungles qui veulent farm peuvent farm, ceux qui veulent gank peuvent gank, et peuvent un peu rattraper dans l'absolu sans revenir à niveau de ceux qui full farm?
Alors c'est un petit peu cette frontière qui a été un petit peu franchie et même complètement piétinée, parce qu'on était dans un état où l'XP de rattrapage, pour donner un terme plus accessible, puisque j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient pas forcément au courant, l'XP de rattrapage quand t'es derrière, elle était un petit peu overpowered, un petit peu surpuissante, puisque tu passais de 4 niveaux de retard à 1 un clear et demi, ce qui était très acceptable. Mais moi cette approche elle me plaît pas trop, parce que je trouve que ça enlève énormément de finesse au rôle de jungler en lui-même. Finesse qui a certes disparu aujourd'hui, je le conçois, mais je pense que cette disparition et le fait qu'on soit forcé à FK farm, c'est lié simplement au fait que les junglers sont en flux tendu sur les timings de respawn des camps, qui sont parmi les plus courts qu'on ait eu depuis le début de League of Legends. Et donc, en conséquence, pas de fenêtre de gank, plus rentable. Le rôle de jungler s'équilibre toujours entre est-ce que c'est plus rentable que je farm un camp, ou est-ce que c'est plus rentable que simplement j'ai de l'impact sur la carte. Et actuellement, juste avec l'effet non assuré d'un gank qui réussit ou d'une action qui réussit, c'est considéré quasiment comme étant un high risk, low reward en quelque sorte. Donc, pour moi, l'angle, il est plus sur la gestion des timers de respawn de camp et dans l'ouverture de la jungle et des champions qu'elle peut accueillir, plutôt que dans la modification des ressources que tu en récupères avec le même système. J'ajouterais d'ailleurs que le fait de buffer certains monstres, comme le Gromp, si je suis au TP à Mumu, bah je suis dans le dur. Je suis grave dans le dur en vrai. Et il y a un peu ce genre de problème là, c'est que pour moi c'est un petit peu schizophrène, c'est on te fait des patchs où genre tu vas pouvoir jouer Z jungle, Darius, Talon, Brand, Morgana.
Ah, c'est vrai qu'ils avaient fait ça.
Et après tu la verrouilles parce que c'est pas opti en fait, Pranked. Et j'aimerais pas revoir la catch-up XP perso, je trouve pas ça sain et pas ça cool pour les junglers dans le perfectionnement de leur poste.
Toi, est-ce que tu penses que ça peut être une bonne solution, Striker, d'augmenter le timing de rip-up des camps? C'est une discussion que j'avais eue un peu avec Zab en off, et il me disait, lui, il est pas fan parce que de son point de vue, ça rend les passings un peu stéréotypés, si avec des plus longs timings de respawn. Mais il y a des gens qui militent quand même pour ça, alors je sais pas où se trouve la vérité. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus?
Je pense qu'en soi, ralentir la fréquence d'apparition des camps, ça peut être une option entre guillemets viable. Maintenant, ça veut dire que si tu te fais counter jungle, tu perds un camp qui sera récupérable encore plus tard. Donc, en l'état dans le jeu, t'es encore plus derrière. Donc, est-ce que ça va pas en sorte que les junglers vont être encore plus concentrés sur leur camp, parce que s'ils le perdent, ils le perdront pour limite toujours. Je pense que ce qui peut être intéressant, et je sais pas à quel point c'est faisable, parce que du coup ça va aussi toucher à l'économie, et c'est toujours un sujet sensible sur LoL, l'accélération des gods et d'XP, mais je pense que si on veut à la fois permettre à un jungler d'AFK farm et à un autre de jouer sur les lanes s'il veut, en polarisant vraiment, ce serait d'augmenter, même s'il y en a déjà, les mécanismes qui récompensent les kills à deux ou plus. Parce que en soi, on se dit que ça permettrait d'être récompensé pour le gank. On aurait de la même façon une opportunité de se faire cross map et de perdre des cadrans de jungle, mais ça pourrait être compensé. Et ça donnerait de la valeur au gank que s'il est entre guillemets réussi. Même si un gank réussi, c'est pas un gank où il y a un kill. Mais dans l'idée, voilà, je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus, mais c'est une piste.
Ouais, en vrai, c'est une piste qui est assez intéressante parce que pour raisonner avec ce que tu dis, on a fait plein de buffs spécifiques aux personnes qui portent les smites ou qui portent les objets jungler. Pour un jungler, il y en a qu'un seul qui a priori va se balader avec un smite. Donc peut-être envisager cette piste. J'avoue que c'est peut-être quelque chose auquel on n'a pas vraiment pensé. Ouais.
En tout cas, c'est un sujet complexe, messieurs, et on le voit dans le tweet de Marketer, et il dit pas non plus que c'est 100% ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'il tâtonne un peu et qu'il attend de voir les retours de la communauté. Il y en a eu énormément. C'est un tweet avec lequel il y a eu énormément d'interactions, énormément de réponses, énormément de RT cités. Donc on va voir ce que ça va donner, mais du côté de Riot, on n'est pas sûr de là où il faut aller, et chez nous aussi, bon, on se demande un peu quelle est la situation finale.
Si je peux me permettre, un dernier truc, ce qui est sûr, peu importe ce qui va se passer, c'est que c'est important de revenir à une époque où on donne le deuxième bleu au midlaner, messieurs.
Oui,
on a perdu bien ça. Sûr. Et attends. Je pense que c'est ce qui est le plus triste aujourd'hui dans League of Legends.
Ça
permet beaucoup de choses.
C'est terrible.
Amen.
Ouais, ben là j'ai deux midlaners à côté de moi, donc forcément moi je pratique la jungle parfois. Moi, je donne pas toujours le deuxième bleu, Twix.
Jamais de la vie, tu m'as jamais donné un bleu de ma vie. Gros.
Quoi? Comment ça? Mais sérieux, ça m'arrive quand même. Après j'avoue, avec Ludir parfois il y a un coup de phénix qui part et bon bah c'est terrible, tu vois.
En vrai, moi j'en ai grave marre que le jungler il ait une laisse autour de mon cou, tu vois, et ils sont en mode ah tu veux le bleu, mais tu m'as pas aidé au carapateur, c'est mort.
Et le pire c'est que souvent ils te laissent mettre les premiers coups dessus et ensuite ils se mettent à la fin.
Après, tu mets un petit ping pour interrogation, là, et let's go.
Merci d'avoir dépensé ta barre de mana pour ça. Du coup, messieurs, on va passer à la suite. Petite discussion sur l'Europe. Quel Big Four pour l'Europe? C'est le thème de notre discussion aujourd'hui. On va faire un petit point sur le classement européen avant de s'intéresser un peu à la situation du LEC. Parce que c'est intéressant ce qui est en train de se passer en Europe. On a l'impression que des équipes de tête semblent se détacher, même si on n'est pas encore exactement au milieu de la saison. Alors du coup, si vous pouvez nous envoyer le classement en régie. Et donc comme vous voyez, oh, par contre c'est pas à jour puisque Rogue a perdu un match.
Bouh.
Ah oui, c'est pas le classement à jour. Mince.
Oh, c'est pas grave.
Ouais. Enfin, si, c'est un peu. Bah si, c'est grave. si. Bon ok, laissez tomber avec ce classement-là. Laissez tomber avec ce classement-là, il n'est pas à jour. C'est celui du début de la semaine, celui-là. Pas celui de la fin de la semaine.
C'est de la faute de Carnage. Hein.
Ouais, bon, écoutez, on va faire sans. Ce qu'on sait, messieurs, c'est que donc Rogue actuellement est premier, 6 victoires, 1 défaite. Schalke, deuxième à égalité avec G2, 5 victoires, 2 défaites. Excel à 4-3. Je pense que c'est un peu l'anomalie du haut du classement, mais bon, il joue des draft scaling qui fonctionnent bien pour l'instant. Fnatic également à 4-3. Mad Lion à 4-3. Et donc ma question, la question qu'on va se poser, c'est de savoir s'il y a un Big Four qui se dessine, ou un Big Five qui est contesté en Europe. Je voulais d'abord commencer par parler du match-up entre Fnatic et G2, messieurs. On a eu de belles choses montrées par les Fnatic dans ce match, et je pense que ça a rassuré pas mal sur leur capacité à contester, je pense, le titre, potentiellement même en Europe. Quelle impression ça t'a laissé, Striker, les Fnatic? Parce que on les voyait parfois un peu désorganisés, parfois trop sanglants, mais dans ce match contre G2, ça avait l'air d'être beaucoup mieux réglé.
Ouais, effectivement. Fnatic, je pense que cette année, même si beaucoup ne seront pas d'accord, je pense que c'est l'année où ils peuvent reprendre le titre, honnêtement. Parce que certes, G2 a récupéré le meilleur ADC qu'on ait eu en Europe, si on prend la globalité. Mais je pense qu'ils ont, en échange, gagné en prévisibilité dans leur dans leur jeu. Je pense qu'à terme, Reckless va rendre G2 plus standard, et je pense que ce qui faisait vraiment la force de G2, quand on regarde les meilleurs moments à l'international qu'ils ont eu, c'est quand ils jouaient d'une façon différente à la méta. Et je pense que c'était aussi lié au fait que par moment on avait des méta qui permettaient de jouer Syndrabot ou ce genre de choses. Je pense que c'est là où ils ont fait le plus d'éclats de génie. Et je pense que si on joue de façon standardisée, Fnatic, je les vois pas forcément en dessous. Poste pour poste, je pense pas qu'il y ait un gros écart nulle part en soi, qui soit au désavantage de Fnatic. Je sais que beaucoup de gens diront que au mid, Caps et Monts et Merveilles au-dessus de Niski. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord aujourd'hui. Je pense que Niski, c'est un des midlaners qui a le plus progressé depuis qu'il est arrivé dans l'écosystème pro. C'est quelqu'un qui va toujours se remettre en question. Et je pense que les gens ont gardé une image du Niski de l'an dernier qui joue autour de son jungler, qui a ajouté une corde à son arc et qu'il survole le fait que Niski, c'est quelqu'un qui peut aussi prendre des responsabilités, qui peut jouer des hard carry même mid. On a vu ça Iridia, on a vu son Azir qui était intensif mécaniquement. C'est quelqu'un qui a une panoplie qui est très très large, et voilà, je pense pas qu'aujourd'hui sur l'effectif Fnatic soit en dessous de G2.
Ok, Twixou, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est l'année où on peut reprendre le titre pour les Fnatic?
L'année, j'en sais rien. Le split, je pense pas, très clairement. Je pense que ça mettra peut-être un petit peu plus en fait. Il y a une problématique chez G2. En fait, il y a plusieurs problématiques. On va être assez transparent. Il y a ce côté effectivement où je rejoins totalement Striker, où Reckless est un joueur nettement plus. Enfin, il est steady, il est merveilleux, étonnamment beau gosse, mais il est effectivement beaucoup plus prévisible et moins explosif dans le côté soudain de sa personnalité que ne l'a pu être Perks. Malheureusement, Perks, bien sûr, pour des raisons qui voilà, ne dépendent pas de lui, ça devait s'arrêter là. Mais je peux pas me dire que les G2 ont réalisé un downgrade en récupérant Reckless. Maintenant, Ça dépend vraiment comment c'est piloté en réalité. Et, je ne sais pas si on a une bonne idée de ce que représente G2 aujourd'hui, parce que c'est une équipe qui est finalement, à mon sens, même pas construite. Et peut-être que Fnatic sera plus rapide, peut-être que G2 pourra se reposer sur les acquis individuels et simplement passer un très bon spring split et une très bonne année, ou peut-être simplement que Fnatic va tiquer beaucoup plus vite qu'eux. En vrai, il y a une grande inconnue, mais G2, empereur de l'Europe, je pense que c'est clairement à remettre en question aujourd'hui.
Ouais, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Striker, tu parlais de créativité. Est-ce que, enfin, mais du coup, c'est vrai que Reckless est sans doute plus prévisible qu'un Perse, mais est-ce que c'est toujours possible d'être hyper créatif sur la bot lane de nos jours?
En soi, je pense que oui, je pense que c'est le cas. Je pense que ça a été le cas dans de nombreuses méta. Mais je vais dire quelque chose qui va pas plaire encore une fois à beaucoup de monde. Je pense que les joueurs pro ADC, c'est les joueurs qui ont été habitués le plus à jouer une seule classe. On a des rôles et on a des classes sur League of Legends.
Ouais, c'est vrai.
Et ils jouaient que des tireurs. Au mid, on a des joueurs qui ont d'abord joué des mages depuis la saison 1. Sur la saison 3, ils ont dû apprendre à jouer des Fizz et des Zed. Ensuite, ils ont dû apprendre à jouer des Galio. Ensuite, Dwinbee est arrivé, il leur a dit qu'il fallait jouer des tanks. Et du coup, sur tous les rôles, on joue plusieurs classes. En ADC, on l'a jamais fait. Et du coup, je pense que ça a un peu bloqué les mentalités. On s'est toujours dit qu'on avait besoin d'un ADC pour on ne sait quelle raison. Parce qu'il y a des champions qui peuvent shred le Nashor aussi bien que les ADC. Il y a des champions qui peuvent jouer les 2v2 aussi bien que les ADC. Aujourd'hui, il y a des champions qui peuvent run Demolish et prendre des plates aussi bien que les ADC. Mais au niveau des joueurs ADC, il y en a très peu qui peuvent piloter ces champions aussi bien, quoi.
Ouais. Pas facile quand même en lane de jouer contre un duo ADC support assez puissant quand même.
Ouais, pour après, tenir la lane et tout. En pro, ça va dépendre de ta préparation. Si tu connais la priorité de l'équipe en face, tu peux sortir quelque chose qui est spécifiquement entre guillemets taillé pour jouer contre, et des duos sans ADC qui restent forts. On l'avait vu rien que l'an dernier, t'avais Luxona, mais vu que ça demande peu de proactivité, c'est plus facilement accepté par les bot lane.
T'avais des anomalies. Et tu fais bien de préciser ça, parce que Reckless a montré qu'il était prêt à faire tout ça. Il a joué des Karma Bot, il a joué des Garen Yumi, il serait, je pense, ravi de jouer de la Séraphine. Donc, le côté surprenant, peut-être que finalement on le sous-estime et que la comparaison à Perks n'est pas aussi flatteuse qu'elle devrait l'être.
Après, il devrait peut-être pas jouer de Zoé quand même, mais bon, on verra.
Non,
on verra. En tout cas, duel entre Fnatic et G2, tu veux dire un truc, Twix, vas-y.
Non, mais c'est sûr, mais Perks c'est une anomalie à la base, c'est ça que je voulais dire. Perks c'est une grande anomalie, un joueur exceptionnel.
Oui, non, ça on est d'accord. Et on espère que les ENA le gâcheront pas trop. En tout cas, un truc, messieurs, qui a un peu gâché cette histoire de Fnatic contre G2, c'est le zéro pointé au management de G2 pour ces histoires de troubles d'internet, puisqu'on a cru qu'on pouvait réutiliser les setups de la gaming house, mais on s'est retrouvé piégé par les méandres de l'internet berlinois. Et du coup, bon, c'est un peu dommage parce que au lieu de célébrer à 100% le résultat d'un classico, on se retrouve dans une situation où on se dit que on n'a peut-être pas eu 100% des deux équipes. Et Wunder s'en était déjà plein la veille finalement, et on n'a pas décidé de changer la donne. Bon, on parle quand même de packet loss de 40% du côté de Wunder et des G2, qui sont pas trop du genre à se plaindre après une défaite, plus à se mémer et à dire que bon, ils auraient pu jouer autrement. Mais c'est la première fois qu'on les voit aussi énervés, je trouve, Striker.
Oui, effectivement.
Mais vis-à-vis d'eux-mêmes, finalement.
C'est ça, et de l'incompréhension que peut avoir une partie du public. À titre personnel, je pense pas que ce soit vraiment à remettre en cause la véracité des propos de G2. Je vois pas pourquoi sur une game de régulière saison ils iraient inventer quelque chose, surtout quand on connaît la qualité du réseau internet à Berlin. C'est vrai que c'est dommage, étant donné qu'il y a eu des lags la veille, qu'ils aient pas pu s'arranger. Parce qu'il me semble qu'en gros ils ont deux setups, il y en a un qui est beaucoup plus safe à ce niveau-là. C'est ce qui expliquait Grams.
Dans leurs locaux.
Voilà, dans leurs locaux. Mais le confort des joueurs a été mis en avant. Et lorsque ça a été un problème sur la première journée, je pense qu'ils auraient dû mettre, disons, la connexion en priorité, clairement, et faire jouer depuis les locaux. Ça aurait été meilleur pour eux, ça aurait été meilleur pour Fnatic et pour tout le monde, parce que je pense que même Fnatic en soi n'est pas aussi satisfait de cette victoire.
Et on voit les petits tweets d'ailleurs des Fnatic, on les a passés là, mais eux aussi effectivement, moi j'ai pu échanger un peu avec du staff Fnatic et ils sont un peu énervés que G2 sorte ces trucs-là sur les réseaux sociaux. Donc finalement, c'est vrai que ça gâche un peu le goût de ce classico et c'est pour ça que petit zéro pointé au management de G2, qui pourtant est souvent porté au nu quand il s'agit des mercato, etc., mais qui là a pas mal fail sur le coup pour donner des conditions qui sembleraient idéales. Enfin bon, moi j'ai envie de dire, toutes ces histoires, ça va pimenter encore plus le match retour, parce que si Fnatic le gagne, ça va lâcher des gros bombes. Bah alors, il est où le problème de connexion cette fois-ci, etc. Et non, ça risque d'être assez pimenté. Messieurs, pour continuer à parler de cette histoire de Big Four, on voulait revenir rapidement sur Rogue et ses drafts de la troisième semaine. On est revenu sur une des deux drafts avec Twix tout à l'heure pour le match contre Schalke 04, mais on n'a pas été très emballé parce qu'on fait Rogue, on se dit qu'ils ont vraiment décidé de jouer en hard mode pour les drafts de cette semaine, et c'était très différent de ce qu'on pratiquait la plupart des autres équipes. On revoit la première draft avec, qu'est-ce que t'en penses de la draft de Rogue, Striker? Je lui ai mis un 4, il me semble. Twix lui a mis un 5 sur 10. Tu lui mettrais combien?
Pas beaucoup plus, honnêtement. Je pense que dans la méta où on est, il faut que tu aies une des deux choses. En mid-game, il faut soit que tu sois capable de très bien recevoir une fight, soit que tu sois capable de très bien l'initier. Et quand je vois la draft Rogue, je vois aucun des deux. Je pense que même au niveau de l'idée de jouer sur les sides, du coup, t'as pas forcément les meilleurs outils parce que t'as quand même une Camille en face, t'as une Kai'Sa qui est très bonne en side également. Tu peux pas forcément, ça dépend du summoner que va prendre Néon, mais tu peux limite pas jouer avec ton Lucian contre une Kai'Sa à partir de deux items en side. Donc je vois pas vraiment où est la win condition. Lucian, de façon générale, c'est un pick sur lequel j'ai beaucoup de mal cette année. Je pense que l'an dernier, c'était quelque chose qui était encore jouable. Si tu jouais très bien, si tu t'appelais Top Esport en Summer en LPL et que tu jouais de façon agressive sur les trois lanes pour aller chercher les plates. Aujourd'hui, avec un Seeker qui est à 900, bon, il va passer à 1000, mais qui est très très cost efficient, et un jeu qui se base encore plus autour des âmes et des dragons, t'as un champion qui est une cible potentielle, mais qui te donne pas d'option d'initiation. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important dans les compositions, c'est d'avoir un nombre d'initiations qui est grand, soit un nombre de cibles potentielles qui est bas, pour faciliter à la fois l'initiation dans un cas, ou rendre difficile l'initiation de l'autre côté dans l'autre. Et quand je vois les drafts, à ce niveau-là, il y a purement un mismatch. Après, peut-être qu'ils ont des résultats en scrim ou une compréhension du pic de Lucian que j'ai pas, mais voilà, c'est à peu près ma vision de la chose.
Alors, on est d'accord, c'est Lucian qui t'interpelle un petit peu ici.
Ouais, enfin, c'est complètement Lucian.
En premier lieu,
le reste est ok. Et je pense que si tu joues avec un Azir, ta compo est...
Elle est bien, Rakan,
je suis pas fan, parce que Rakan, je trouve qu'il est counter par pas mal de méta support. Maintenant, la laning phase Rakan, ça a toujours fait ses preuves, et c'est peut-être pour ça que c'est là aussi, mais.
Et ils ont pris des kills à certains moments importants de leur league game avec ce combo, donc c'est vrai que.
Ouais, clairement. Le Lucian, après, voilà, en teamfight, c'est une cible en plus pour ton Jarvan. Ça ne te permet pas de zoner comme va le faire un Azir ou une Orianna. Enfin, si tu inverses les midliners, certes, Lucian peut follow sur un Jarvan, mais la Orianna peut zoner la backline aussi. En fait, je trouve que Lucian, de façon générale, dans une méta où t'as beaucoup de carry jungler qui ne sont donc pas souvent des tanks ou des champions qui ont du setup, ça a peu de value finalement, parce que il peut follow up sur pas grand chose et il donne un point d'engage en plus à l'équipe en face.
Il y a une odeur de scrim dans ce match, c'est vrai, parce que il y a ce côté, on a des joueurs très talentueux, très en confiance, sur des picks qui apportent pas un setup de fou, mais qui peuvent créer du jeu, tu vois, et bon, c'est, peut-être que ça marche en scrim, effectivement, mais ça nous a pas trop convaincus. La deuxième draft, c'était celle d'hier, où pareil, on s'est dit que les Rogues se sont mis dans une situation où il fallait vraiment jouer en hard mode. On le voit de nouveau, une histoire avec Lucian, Lilia cette fois-ci, Blitzcrank, Kai'Sa et un Kennen qui a pas beaucoup de setup pour jouer, si ce n'est peut-être un très bon ulti de Lilia, mais on sait que parfois, enfin, les très bons ultis de Lilia sur 3-4 joueurs en face, faut des flashs un peu merveilleux, ça arrive qu'une fois dans une game. Pareil, Striker, ton avis sur la draft? C'était dur à jouer pour eux. Ils l'ont gagné, celle-là.
Ouais. Ils l'ont gagné. Après, ils le gagnent contre une équipe qui est pas la meilleure de LEC et qui n'ira pas révolutionner League of Legends en Europe. Donc, je pense que la compo reste interpellante. C'est la même chose. T'as un Skarner en face, un Thresh qui veut pick-up. Avec un Lucian, tu leur donnes une option de plus. Tu te donnes pas beaucoup d'options pour aller face check une river. Donc, ça veut dire que tu dois très bien jouer la macro parce que tu dois être premier. Parce que peu importe à qui tu face check, même ton Blitzcrank, tu peux te faire one shot. Donc, en soi, contre une équipe du même niveau que Rogue, mais qui joue la draft de Astralis, je pense pas que ça passerait, en soi.
Ouais.
En fait, tu joues en hard mode, mais sans raison. L'an dernier, quand tu jouais Lucian mid, il y avait une raison, je pense. C'était le fait que tu pariais sur la compétence de ton midliner à prendre le match-up de court et à gagner purement 1v1. Aujourd'hui, par rapport aux junglers qui sont joués et à l'itemisation en général, je pense que ça a moins de valeur de faire ce pari-là.
Ok, donc toi t'es vraiment pas fan de Lucian de nos jours, Striker, finalement.
Non, pas tellement.
Pas tellement. Pas tellement. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, Rogue Twix, quand même parmi nos top teams en Europe, parce que le sujet, c'est le Big Four européen. Ouais. Ils en font partie, très clairement. Je pense qu'ils vont ajuster leur draft. On ne devrait pas continuer à avoir des drafts de ce genre pour les semaines à venir.
Je suis bien d'accord, d'autant plus que dans les drafts, là, on parle vraiment des champions, mais il y a aussi, on pourrait passer beaucoup de temps sur celle-ci au niveau de l'ordre de sélection et justement de l'ordre de priorité de ce Lucian qui est... Top of the list, véritablement, c'est pris première rotation. Mais oui, il n'y a aucune inquiétude à formuler, ce serait pas légitime de faire ça au Rogue. Et plus que faire partie du top 4, ils font partie de la bonne moitié de ce top 4, à mon sens, et véritablement sans rougir. Après, en ce qui concerne les trois autres, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de monde à faire rentrer là-dedans.
Eh ben attends, ça va être intéressant parce que la première discussion pour nous, ça va être Schalke 04. On veut évoquer leur situation. Ils sont sur 4 victoires d'affilée, dont une contre G2, une contre Rogue. Donc on peut se dire quand même que la série en cours est assez impressionnante. C'est un peu le prétendant surprise de mon point de vue, à tel point que voilà, il y a des petits mèmes qui ont été sortis. Celui-là m'a beaucoup fait rire du côté de Schalke parce qu'on a beaucoup rigolé sur le Schalke 04, Schalke 05, Schalke 06. Jusqu'au 0-8 ou 0-9, il me semble. Et là, c'est le Schalke 4-0 qui est en série. T'as pu voir leur match un peu, Striker. Qu'est-ce que t'en penses? Broken Blade, notamment, est assez bon, alors qu'il a passé du temps au NA, mais il avait une grosse réputation de joueur excellent en lane, de très bon duelliste quand il est parti là-bas. Il y avait des équipes européennes qui avaient des prétentions sur lui, Splice à l'époque notamment, mais il a été enlevé par les NA. Et tu penses quoi de cette version de Schalke? On a des laners solides. On a des drafts solides. Ça fait pas de, Ça fait pas de fioritures, mais ça a l'air rudement efficace.
Oui, clairement. Quand tu les vois aujourd'hui jouer, pardon, je pense que leur place en playoff, elle est plus ou moins assurée. Au-delà du standing, je pense qu'ils montrent, comme tu dis, une solidité, que ce soit sur les landing phase ou sur les drafts aussi qu'ils proposent, qui fait que je les vois pas rater le rendez-vous des playoffs. Est-ce que c'est assez pour aller chercher un titre? Je sais pas. Faut voir ce que donnera Broken Blade sur une série de playoffs contre un Wounder, un Bouipo.
Est-ce que c'est une équipe top 4 pour toi? Parce qu'on va parler de Mad Lions après.
Sur le Spring, je pense que ça peut faire top 4, ouais. Après, sur le Summer, c'est toujours différent dans le sens où généralement t'as des patchs plus importants, la méta peut changer, etc. Mais de ce qu'on a vu là, je pense que ça peut faire top 4. Et je pense que ça va cliquer et être en place plus vite qu'une équipe comme Mad, par exemple.
Twixou, ils t'ont convaincu, toi? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de grosse faiblesse. Gilus prend les initiatives dans la jungle, il a l'air de pouvoir jouer un peu tout, que ce soit les junglers farming ou des junglers plus comme Jarvan, comme on l'a vu dans le match contre les Rogues. Elle te convainc, cette version de Shalk, finalement? Bibi et Abedague ont l'air d'être vraiment hyper bons à leur poste respectif. Ils sont parmi les meilleurs en termes de rating. Qu'est-ce que t'en penses?
J'aime beaucoup Abedague, j'aime beaucoup le travail qui est fourni par Limit, également la traversée du désert qui a été faite par Néon, qui revient de très très loin et a un beau visage aujourd'hui. Gilius, je reste encore un petit peu mitigé sur les éclats de génie qui sont parsemés d'excès d'orgueil, très clairement. C'est un joueur qui, je pense, le porte très très bien et ça se voit un petit peu sur la faille. Un peu, bon, je prends une comparaison, mais un petit peu à l'image d'un Adam. Tu vois que le joueur, il est là, et si tu vas au corps à corps, il va te go, c'est sûr.
Là, non, jamais.
Je le sens, il y a une espèce d'aura, un petit peu. Mais en ce qui concerne Broken Blade, j'avoue que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fonctionne aussi bien, parce que son profil est en soi... On parlait de joueurs prévisibles auparavant avec avec d'autres profils. Je pense que ça peut également se discuter au niveau de Broken Blade, qui a toujours eu de grandes qualités, bien connues, bien exploitées. Il a quasiment été recruté pour ça, notamment de laner, dueliste, etc. Peut-être que Shalk a trouvé le moyen de faire grandir ce profil là où il était un petit peu hard stuck en Amérique du Nord, et c'est pour ça que mon appréciation de Shalk Nulfir est je pense erronée par rapport à mon sentiment en début de saison. Je n'ai pas accordé à Broken Blade la possibilité de progresser en étant un import au sein de l'Europe,
et
je pense que c'est une bonne erreur de ma part. Voilà.
On est d'accord, parce qu'en NA il n'avait pas toujours été impressionnant, mais là on le trouve vraiment très bon, et Striker.
Et c'est vrai que Broken Blade, c'est typiquement le genre de profil qui va pouvoir faire avancer ses forces beaucoup plus en Europe, parce qu'en soi, en NA, quand t'arrives et que t'es un joueur qui va se baser sur les mécaniques et la laning phase, deux points sur lesquels Broken Blade est très bon, même si tu le compares à des clients européens, si tu pars en NA, tu pourras pas entretenir tout ça au même niveau que ce que tu vas faire en Europe. En Europe, t'as des mecs comme, bah, notamment Adam, tu le joues en solo queue, le mec est même pas en LEC, il va te donner du fil à retordre en laning phase. Donc, tu vas avoir des joueurs comme, voilà, des Adam, des Yopa, des mecs qui arrivent, qui sont très solides et qui vont faire que, ce qui fait ta force, tu vas pouvoir l'entretenir. Alors qu'en NA, c'est compliqué. Plus, je pense qu'il y a un système de jeu et une mentalité en NA qui fait que on s'appuie pas autant sur les bons laners, quoi.
De fou, mais c'est du... Ouais. Honnêtement, les matchs NA, je sais pas si tu regardes, on divague un petit peu, désolé Chipsou, je te rends la parole.
Non, mais vas-y.
Je sais pas si tu regardes un petit peu de LCSNA, mais tu vois, nous, après un petit LEC...
c'est notre petit plaisir coupable du soir.
Ça m'arrive, ouais.
Tu as frise des dieux, Kinder Bueno et un petit peu de LEC, quoi. Et du coup... C'est vraiment, j'ai l'impression de regarder le même script encore et encore et encore et encore, et j'ai jamais vu, tu parlais de jeu polarisé, mais là c'est la quintessence qui illustre tout ça. C'est rendez-vous toutes les 5 minutes au dragon, tout le monde est là, on y va, et on reprend dans 5 minutes, et on reprend dans 5 minutes, et on reset, et on est sur le nage, les side, c'est vraiment étape par étape, t'as l'impression que le jeu il est limite, c'est complètement scripté, c'est vraiment la folie. Et je te rejoins complètement, les joueurs qui prennent des risques au sein d'Amérique du Nord, dans pas mal de situations, ça va être considéré comme étant des gros hunters. Et du coup, bah, tu rentres dans le moule parce que t'as pas envie de te faire cartoucher par ton staff.
C'est ça. Ouais. Ouais. Et puis on se retrouve dans des situations où, de toute façon, comme le disait Striker, les joueurs peuvent pas continuer à être le meilleur dans leur style, notamment s'ils sont très mécaniques, parce que la solo queue semble pas spécialement pouvoir le permettre. Détour par Mad Lions, messieurs, puisque c'est une équipe qui semble quand même être largement prétendante au Big Four dont on parle, mais actuellement, il y a des drafts peut-être qui cherchent trop le scaling, encore que. Mais il y a de la créativité aussi, on a pu le voir hier contre Vitality, la Seraphine bot avec deux gros briseurs qui à partir de deux items deviennent intuables et tu fonces dans le team fight, ça marche pas mal. On a du talent rigolo, du côté ça. Mad Lions. Qu'est-ce que t'as dit, Twix?
Je dis ouais, c'est rigolo ça.
Ouais, c'était rigolo, ouais. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même un joueur qui arrive pas trop à perdre, je trouve, c'est Karzy en ce moment, là où du côté de Schalke 04, même si on peut dire du côté de Gilius, ouais, on n'est pas encore sûr à 100%, mais il fait quand même des bonnes games dans l'absolu et il est rarement à la ramasse. Par contre, du côté de Mad Lions, on a l'impression que pour Karzy, c'était déjà sur la pente descendante au Summer Split dernier et on continue à glisser. C'est quoi ton avis, Striker, sur les Mad Lions? Parce qu'on a quand même un profil comme Humanoid qui est juste un Jedi et à côté de ça, faut quand même porter sur son dos régulièrement Karzy.
Ouais, bah je pense que Karzy, il a entre guillemets la chance d'avoir Seraphine qui est un champion un peu overtuned et selon ta draft tu peux voilà en abuser quand t'as des joueurs top 7 qui sont bons. Bon, j'espère qu'il y aura d'autres alternatives pour lui ou alors qu'il retrouvera son niveau qu'on a pu connaître en spring de l'an dernier. Je pense que Mad c'est une des équipes qui peut bien scale et faire quelque chose au summer. Je pense que leur top side est très prometteur. Elulia, je pense que c'est un très bon jungler qui a une bonne base en termes de connaissances et qui va faire que improve au fur et à mesure des scrims et des matchs on stage.
Il est rarement pris à défaut en early game. Hein. Il suit souvent la bonne lane, ses cycles de jungle sont propres.
Il est vraiment clean. Et à côté de ça, t'as Armut qui, même si un peu parfois foufou, je pense que le fait qu'il ait été à un tel niveau au Worlds avec pourtant de base un environnement d'entraînement qui était bien moindre. Il me semble qu'il vient de TCL, Armut.
Oui, c'est ça.
Donc les scrims de TCL, c'est aujourd'hui ça vaut même pas la LFL ou même certaines équipes d'autres ERL.
Let's go.
Pardon.
Let's go. J'ai juste.
Ah ok. Et donc je disais le fait qu'il ait eu un certain niveau mécanique et purement au niveau personnel qui ait pu être développé dans une région qu'on pourrait qualifier d'un peu moins opportune à ça, même si tu peux en soi jouer dans le même solo queue que les joueurs européens et tu peux scrim des équipes ERL, t'es dans une ligue qui reste moindre, ça me permet de me dire que il va se développer d'autant plus sur la LEC quoi. Donc je pense qu'en summer c'est une équipe qui peut faire mal.
Ouais, peut-être plus que Schalke même, de ton point de vue.
Moi, je les vois avec un plus gros ceiling. Je les vois avec un plus gros ceiling à cause de la jungle.
Ok. Elioia, ouais, contre Gilius, effectivement, sans doute un peu plus de potentiel du côté d'Elioia. Enfin, j'ai aussi ce sentiment de mon côté. Très bien, messieurs, notre discussion concernant l'Europe se termine et on fait un petit crochet du côté de la Corée avant de se laisser pour cette deuxième édition de Hashtag Analyse. Petit tour du classement du côté de la Corée. Twixout y était ce matin. T'as pu commenter les Damwon. Tu vas me faire un petit état des lieux de leur état de forme finalement, puisque depuis la défaite contre les Bros, on a resserré les vis. J'ai l'impression et on retrouve une équipe qui explose un peu tout sur son passage. Alors si on peut avoir le classement du coup de la LCK en régie. Donc la LCK actuellement, c'est Damwon qui a créé de l'espace avec Genji à 7-1, Genji 5-3, égalité avec, enfin égalité, au nombre de BO gagnés et perdus avec Onwa Life et DRX également. T1 qui commence à remonter petit à petit et qui a peut-être trouvé l'équipe qui sera titulaire dans cette saison. Et ensuite, on enchaîne. KT, même nombre de BO gagnés que perdus que T1. Pas pour longtemps, les KT. Africa, Nongshim Red Force, les Sandbox. Et puis, les Bros pour fermer la marche. Twixu, l'état de forme de Damwon, dis-moi en plus.
Mec, ils sont grave chauds. Ils sont grave, grave chauds. Alors, ce fameux bio contre les bros, il m'avait beaucoup interpellé, donc je l'avais maté un petit peu et rematé. Et effectivement, enfin, il n'y a rien à dire. Quand Showmaker se fait solo kill par la Zoé de Lava, bon, bah, juste, il y avait un homme qui... C'était pas un homme, c'était un animal aujourd'hui. Tu peux pas vraiment l'expliquer, mais voilà, le pouvoir... je sais pas, une histoire de shonen. Mais les Damwon, il y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Au contraire, il y a des questions à se poser. Finalement, vite une compétition internationale pour qu'on puisse un petit peu mettre le baromètre sur leur état de forme, parce que de ce qu'on voit dans l'environnement européen, c'est juste une équipe qui est pour moi sur la lune, qui a certes perdu un joueur exceptionnel qui, comme Croc nous l'a dit en début d'émission, se porte merveilleusement bien au sein de Fun Plus Phoenix, c'est-à-dire Nuguri. Mais en ce qui concerne la réapparition de Khan au sein des Damwon, bah le mec, enfin, il se sent extrêmement bien. De retour à la maison, lane dominant, pick un petit peu particulier, un des grands défenseurs utilisateurs de Sion, notamment dans cette méta-là. Du côté de Showmaker, ça se jouait avec Chovy il y a deux semaines, parce que Chovy avait sorti des games assez folles, mais aujourd'hui, je veux dire, tu peux pas dire que Showmaker n'est pas le meilleur midlaner de Corée. Pour moi, son laning est archi clean. Il a un jungler qui est un véritable monstre aussi, et qui aujourd'hui nous a notamment fait de belles démonstrations sur Graves. Et le point un petit peu sur lequel on se pose le plus de questions, comme d'habitude chez Damwon, tellement les trois profils topside sont monstrueux, c'est la botlane. Et je vois pas ce qu'il y a à redire de la botlane aujourd'hui, toujours dans cette optique où elle n'est pas aussi souvent jouée strong side que sur beaucoup d'équipes qui ont des botlanes féroces. Mais en soi, les Damwon ont en permanence l'option et peuvent un petit peu basculer entre les deux. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et ils basent leur jeu sur autre chose que les extrémités de la map. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils créent. Et je pense qu'ils sont peut-être même pas à leur forme finale. Voilà.
Est-ce que tu as des éloges rapidement, Striker, sur Damwon? Parce que je sais que tu suis les top teams de chaque région. Et donc forcément, tu dois un peu regarder ce que font les champions du monde en titre.
Ouais. Alors les games d'aujourd'hui, il me semble qu'ils ont joué ce matin. J'ai pas eu le temps. J'ai pas encore eu le temps de. Je vais récupérer ça tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de regarder. Joli, mais sur le début de la saison, honnêtement, comme le dit Twix, t'as une équipe qui est monstrueuse malgré le départ de Nuguri. Je pense que le trade au final a été bénéfique aux deux joueurs. Les deux se portent très très bien dans leur région respective. J'espère un peu voir un affrontement. Voilà, s'il doit y avoir une mid-season cup ou même un MSI. Ouais. Entre les deux, ce serait sympa.
Ouais.
Damwon Showmaker, je pense qu'il est aujourd'hui en avance sur beaucoup de choses. Je pense que en termes de laning, de gestion de wave, c'est un des meilleurs midlaners qu'on ait eu sur LoL tout court. Je pense que quand on compare à des gens comme Caps, même l'an dernier, on voit une différence en vrai quand on s'attarde sur les pro views qui étaient disponibles sur les sites chinois, sur des match-ups qui sont exactement les mêmes. T'as pas la même finesse au niveau de la gestion des waves, t'as pas la même utilisation du spacing, c'est un autre niveau Showmaker aujourd'hui, sur un rôle qui a toujours été très important, et il est entouré de quatre autres excellents joueurs, donc c'est sûr que ça fait mal. C'est comme Twix le disait, ils ont pas perdu grand chose de l'an dernier, quoi.
Ouais.
Ce qui est rare en plus, il me semble.
Oui,
t'as souvent,
très rare.
En tout cas, T1, par exemple, qui est une équipe qui a toujours enchaîné les gros tournois et les Worlds, etc., ben, en Spring, ils arrivent souvent avec un niveau plus bas. Et ça se comprend, parce qu'il y a bien un moment où il faut qu'ils fassent un break, et c'est souvent avant de reprendre. Mais Damwon, t'as l'impression que la finale des Worlds, c'était hier, et que voilà.
Ouais, je suis d'accord. Et sacré niveau qui est sorti de leur part. Donc on vous recommande, hein, venez voir les matchs de Damwon sur OTP LOL. Il y a de très belles choses à voir. C'est du beau League of Legends. Et pour terminer ce hashtag analyse numéro 2, messieurs, je voulais revenir sur une petite interview qu'a fait Faker récemment au micro de plusieurs médias coréens. Et il parlait de la situation de l'équipe, il parlait notamment de l'âge des joueurs et de son point de vue du fait que l'âge des joueurs allait augmenter dans le League of Legends au fur et à mesure, et il comptait être un pilier à ce niveau, et de son point de vue, il peut le prouver qu'en gagnant des titres. Donc c'est intéressant, et je pense que ça prouve l'envie qu'il a de continuer à jouer au meilleur niveau et de continuer à s'améliorer. Et un truc qui m'a interpellé dans cette interview, C'est que il a fini par dire qu'il avait des différences de point de vue avec son coaching staff, ce qui est super rare dans une équipe coréenne. Et il a dit on est dans le process d'essayer de régler ça et de croiser et de trouver un optimum. Et il disait dans tous les cas, n'essayez pas de deviner ce qui se passe ou de flame telle ou telle partie. Faites confiance au process. Notre but c'est de gagner à la fin. On veut tous gagner. Et voilà, donc ça m'a semblé un peu tendre parce que c'est assez rare. Et du coup, j'avais une petite question pour toi, Striker, par rapport à ça. Quand un joueur n'a pas le même point de vue de toi, comment ça se règle?
Tu veux dire sur des sujets de jeu?
Ouais.
Genre,
ça
peut être. Non, mais parce qu'après, on n'a pas les mêmes sensibilités sur l'hygiène de vie et ce genre de choses. Mais c'est plus Shanky qui s'en occupe. Moi, personnellement, j'essaie toujours de partir. Je demande aux joueurs de m'expliquer. Parce que je pars du principe qu'il y a peut-être des choses que je ne comprends pas dans sa situation et des clés qui me permettront de mieux comprendre son point de vue. Et c'est aussi une vérification. Parce que si on est sur effectivement ce que moi je comprends, alors mon argument tient la route et je peux déballer. J'essaie d'imposer le moins possible. Parce que je pense que si ça vient pas d'un joueur, l'idée que tu lui donnes, elle sera moins bien maîtrisée. Il va jouer les waves de la façon dont tu lui indiques, s'il en est convaincu lui-même. On est convaincu, enfin, nos pensées sont celles qui nous drive le mieux, quoi. Donc j'essaie d'être dans l'échange et j'essaie aussi de, enfin, j'apprends à le faire parce que c'est quelque chose que j'avais du mal à faire. J'ai toujours entre guillemets du mal à faire. Donner du temps et pas essayer de discuter de tout le temps, quoi. De sélectionner. Mmh. Et de donner du lest aux joueurs, parce que je pense que c'est important qu'ils se développent aussi eux-mêmes et que ce soit pas tout le temps quelqu'un d'extérieur qui vienne modifier leur façon de penser, parce que sinon ça leur donne des réflexes qui vont être entre guillemets de l'ordre de l'attentisme et ils vont pas forcément réfléchir eux-mêmes sur différents aspects du jeu. Parce que si t'es habitué à avoir un feedback qui est constant de ton coach ou de ton coaching staff, t'enlèves la partie réflexion et la partie feedback de ton appréhension du jeu. Et j'essaye de pas trop le faire.
Ok. En tout cas, ça nous a surpris de voir ce genre de truc parce que c'est pas des déclarations qu'on voit souvent en Corée et on va voir ce que ça va donner. Mais t'en penses quoi du petit roster là qui tourne avec Zeus, Elim, Faker, Gumayusi, Keria? Ça envoie quand même, hein. C'est, il y a du potentiel, j'ai l'impression.
Il y a que ça du potentiel. Enfin, il y a du talent. Tous les joueurs ont montré qu'ils étaient bien évidemment doués. C'est véritablement l'entrée de la seconde génération, peut-être troisième au final, mais parce que Faker en a fait deux, mais oui. C'est un peu une exception. Donc nouvelle génération, en tout cas ça c'est certain. Pour moi c'est l'incarnation d'un projet long terme en fait. C'est plutôt ça ma problématique, c'est quel va être le rapport entre la pression des résultats et l'espace que tu veux donner aux joueurs, parce que je rejoins totalement la manière dont pense Striker à ce niveau-là, et je pense que simplement il peut y avoir un effet l'effet Google ou l'effet Pro Build, un petit peu pour caricaturer, que ça parle à tout le monde, c'est-à-dire que au lieu de poser la question de ce que tu vas jouer, ce que tu vas piquer, qu'est-ce qui serait mieux machin, et d'en apprendre un petit peu tous les cheminements qui te mènent à avoir ton raisonnement, bah tu vas juste soit recracher ce qu'on t'a soufflé ou simplement aller trouver la solution comme si t'allais voir les meilleurs compos sur TFT par exemple, ce que je fais. Donc quoi qu'il en soit, je pense que c'est une très très bonne approche, et pour moi il faut du temps. Et je pense que cette line-up, elle est loin d'être fixée, elle est pas définitive, elle a aucune raison de l'être actuellement, y compris. Et oui, je dis ça, mais il nous arrive d'être sérieux de temps en temps, mais y compris pour le poste de Faker, parce que ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur de la team et de ce qui est le mieux pour l'équipe. Maintenant, les ambitions qui ont été formulées par Party One depuis l'année dernière n'ont clairement pas signifié qu'il y allait avoir une année de transition, c'est-à-dire une année où on reconstruit un projet from scratch. Donc... Je m'attends au meilleur, je m'attends au pire. Comme dirait Faker, je ne cherche pas à savoir ce qui se passe, j'ai foi.
Oui, il faut avoir foi. Il faut avoir foi dans le process de T1. Et sur ces sages mots que nous allons conclure ce hashtag analyse numéro 2. Merci beaucoup, Striker, de nous avoir rejoint et d'avoir participé à l'émission.
Merci à OTP.
C'était un plaisir.
C'était très enrichissant.
C'était un plaisir. Et t'as peut-être un mot de la fin pour les gens?
Pas forcément. Enfin, si, les remerciements habituels aux gens qui nous suivent. On a la chance d'avoir une très très grosse communauté qui nous suit avec K-Corp. Toujours hyper positif, même sur les matchs qu'on a perdu. Donc, continuer, c'est vraiment cool. Il n'y a pas forcément des retours à tout ce que vous envoyez, mais en tout cas, les joueurs ils hallucinent chaque semaine de voir ce qui se passe à chaque game et ça les booste très clairement. Donc, merci à vous, merci au TP évidemment pour l'invitation et voilà, c'est à peu près tout.
J'ai une dernière question, excuse-moi Chipsou, j'ai une dernière question pour Striker, parce que j'ai vu un petit peu, merci à toi bien sûr, rien ne serait possible sans vous et votre passion, et particulièrement celle de la K-Corp qui a cassé pas mal de choses en arrivant, mais ma question c'était sur Syncroft, il pense vraiment que Kotei est une caricature d'oncle de 40 ans moustachu?
Apparemment c'est le cas. Syncroft il a beaucoup d'idées spéciales qui sont très très drôles, certaines qu'on peut pas mettre dans les my check qu'on sort donc il bride un peu le contenu en ce sens, mais oui, pour lui c'est Tonton Kotei, voilà.
Tonton Kotei, très bien. Ah, c'est trop
très mignon, bien là. Très bien, très bien. Et bien Tonton Kotei, très bien. C'est sur ces mots assez drôles qu'on terminera ce hashtag analyse numéro 2. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les dimanches à 20h pour cette émission à chaque fois avec un nouvel invité. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve eh bien dans la semaine sur OTP pour plus de compétitions de League of Legends. Pas de LCK cette semaine, on vous le rappelle, du coup la Div 2 à partir de demain. Mercredi la LFL et vendredi le LEC bien sûr. Bonne soirée à tous, bonne fin de dimanche, salut.